Non, ça parlote, ça parlote. Hé, tout le monde en tête, on se réveille, plateau. Il y a peut-être du sport qui a reconnu ce générique.
Ah bah, c'est yellow, ça, non?
C'est la bib.
Salut, salut, vous écoutez Radio FMR. Nous sommes le samedi 4 mai 2013 avec la musique à fond. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. Je m'éloigne.
Pardon.
C'est terrible la régie, ah là là. Qu'est-ce qu'il y a à 15h? À 15h du reggae avec Janet Dead et à 17h FMR 7, toujours l'antenne à Booster FM sur les 89.1 FM. Mais dans l'immédiat, voici votre dessin animé de pirates que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
C'est la séance jeudi sur Sci-Fi. Il y a toujours des titres incroyables. Là, on nous a sorti Jurassic Attack.
Ah.
De Anton Frankhauser.
C'est le nom du chien. Jurassic Attack. Avec.
Radio FMR présente. Le supplément week-end.
Ah.
Ah.
Parce qu'on est. Je sais pourquoi. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 4 mai. Et en anglais, le 4 mai, ça fait.
May the Force.
Be with you.
Be with you. Ouais. Tout à fait.
Et voilà.
We speak English.
Eh oui.
Et supplément week-end. Alors, je pense que le sport est perplexe là. Il n'a pas compris. Ouais. Quelle est la blague? Do you speak English?
The 4th of May. Alors, c'est May the Force.
May the Force.
On est le 4 mai.
Ah ouais, May the Force. Ouais.
May the voilà. Force.
Alors, tous les ans, ça marche.
Ok.
Et est-ce que demain, c'est la revanche des Fists?
Je sais pas. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé. Il y a un compte officiel Dark Vador sur un réseau social qui a dit J.J. Abrams, si franchement tu fais une merde, on t'appellera Jar Jar Abrams.
Pas mal.
Pas mal.
Ça passe.
Pas avouer. Bonjour et bienvenue sur le supplément week-end numéro 348 Star Wars Day. Et non, le thème n'est pas Star Wars, quoi qu'il y a un pirate.
Du tout.
Il y a un pirate en personnage principal, hein, quand même, de la vraie trilogie.
Oui, tout à fait, c'est un pirate au départ. Avant d'être reconverti héros de la résistance.
Et qui dit ouais, non, mais j'ai le navire le plus rapide de la galaxie et tout. Enfin, un Jackie avec les jantes alliage à l'avant.
Et il tire le premier.
On est d'accord. Oui, d'accord, il tire le premier.
Shoot the first.
Aujourd'hui, dans ce supplément week-end, ma foi, donc on va parler de pirates, mais pirates à l'ancienne.
Oui, à l'ancienne, de tout ce qu'on peut faire de plus ancien, oui.
Avec une référence à Astérix en Hispanie, je suis pas sûr de l'avoir bien comprise.
Une référence à Astérix en Hispanie?
Oui. Oui, dans ton interview. Il y a aussi...
bon réveil.
Il sera question de la Dame de Fer 3. Pardon, de Iron Man 3, pardon, je l'avais mal comprise. Blackface Banjo, qui est une bande dessinée qui est vraiment très, 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 très belle. Et plein de choses. On va peut-être commencer de suite avec une partie agenda, je pense. Un peu au débeauté, puisque aujourd'hui a lieu, en ce moment, le salon Alchimie du jeu. Qui c'est qui y va?
Moi, j'y vais.
Moi, demain.
Ah ben moi, peut-être que j'y vais demain, alors peut-être qu'on se verra là-bas.
Bah ouais.
Donc profitez-en, donc c'est au Parc des Expositions de Toulouse, ça s'appelle le salon Alchimie du jeu, je ne sais plus la combien d'éditions c'est, mais ça fait pas un paquet d'éditions déjà.
Ouais.
Alors c'est l'entrée gratuite. Alors le principe c'est que il y a plein de tables pour jouer à des jeux de société, des jeux de plateau, des jeux physiques à base de jeux de ki, des jeux à l'ancienne avec du bois, etc. Un côté jeu pour les tout petits. On a des jeux qui monopolisent un micro, etc. Donc vous pouvez jouer à plusieurs types de groupes. Et il y a des bénévoles qui sont là pour vous expliquer les règles.
Il y a tellement de bénévoles d'ailleurs qu'il y a même des bénévoles qui font la traduction en langue des signes.
Oui.
C'est une initiative quand même à saluer. Donc il y a vraiment un effort d'accessibilité. Je crois que l'accès est
gratuit.
Gratuit, ouais.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure.
Pardon, excuse-moi. Voilà, je cherchais en fait le numéro de l'édition et.
Alors, principe du salon du jeu, c'est qu'à l'entrée, on te donne un petit.
Il n'y a pas le numéro.
Un petit autocollant à mettre sur. D'accord, à mettre sur ton t-shirt. Comme ça, quand tu es appelé dans les. Parce que dans les parties, normalement, on doit. Ça aide de savoir les prénoms des gens, donc tu te mets ton petit prénom.
Ah.
Et après, c'est, en fait, le principe aussi, c'est de pas rester que entre potes, parce que vous pouvez aussi y aller tout seul. Et là, vous pouvez vous intégrer à des tables. Par exemple, il y a des tables qui sont là, ils sont en train de regarder un peu partout parce qu'ils cherchent des joueurs. Parce qu'il y a certains jeux qui ne se jouent qu'à à partir de 6, alors quand ils sont 5, ils attendent des joueurs. Donc ça, c'est pas mal.
Un Colon of Catan, ça ne dit pas.
Alors vous avez plusieurs types de jeux, et puis alors, surtout l'un des principaux attraits, c'est que vous pouvez tester en exclusivité des jeux en bêta-test qui sont apportés par leurs créateurs eux-mêmes. Donc ce sont les créateurs qui vous initient au jeu, et puis alors, généralement les jeux ne sont pas finis, donc vous pouvez donner votre sentiment au créateur en direct.
D'accord.
En disant, oui tiens,
c'est
la
nul,
chute du jeu, oui voilà, ce jeu n'est pas fini, ou les règles là, bon, voilà, ce serait mieux comme ça, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, vous pouvez aussi demander à des bénévoles, je cherche tel type de jeu, donc ils vont plutôt vous aiguiller sur certains types de tables par rapport à d'autres. Donc c'est vraiment très sympa à faire au moins une fois, et c'est mieux si vous y allez à plusieurs, comme ça vous rigolez ensemble, voilà.
C'était en nocturne hier, c'est en nocturne ce soir, jusqu'à 2h
du matin. 2h
du matin.
Ouais.
Waouh. Café.
Et jusqu'à 19h demain.
Voilà, exactement. On reçoit d'ailleurs, je crois.
Alors, il faut qu'on confirme la date parce que on a dû la reporter. Nous devons recevoir un peintre professionnel de figurines qui viendra nous expliquer sa passion du jeu. Et il fait partie d'ailleurs des stands de bénévoles qui vont s'occuper du salon du jeu. Ça s'appelle la Team Toulouse, qui vous pouvez aller leur faire un coucou. Ils vont vous proposer aussi une initiation à la peinture de figurines.
Bref, en clair, non, c'est vraiment, c'est vraiment super bien.
Il y a tout type de jeux, sauf les jeux vidéo.
Voilà.
Et les jeux sexuels.
Avec des doigts. Avec des doigts, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Et il n'y a pas de jeux sexuels non plus.
Je réfléchis.
Non.
Ou alors ils ont été dans un compartiment que je ne suis pas allé, à mon grand désarroi.
Ouvert à partir de 2h du matin.
Voilà.
Donc on sait.
Ok. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? Le 18 mai, à la librairie des Petits Ruisseaux, Marc Jailloux sera présent pour Alix, le 32e tome, s'appelle La Dernière Conquête. Il vient de sortir chez Casterman. Il a annoncé, de ce que j'ai lu, la critique sur Actua BD, comme quoi on revenait à peu près au niveau donc du créateur de Jacques Martin, puisque c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'égarements par rapport au script qu'il avait laissé. À ce qui paraît graphiquement aussi, il est vraiment bien. J'en parlais tout à l'heure en critiquant la revue Zoo, le mag. Je ne l'ai pas encore vu. Donc c'est le samedi 18, si je me trompe. Donc de 15h à 19h à la librairie des Petits Ruisseaux, qui est rive gauche de la Garonne,
vers Saint-Cyprien, à côté du métro.
Voilà, ce qui n'a rien à voir avec la rive gauche de Paris. Voilà pour ceux qui nous écoutent en podcast. Et bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, il y aura le quatrième, on en parlait hors antenne, excusez-moi, le quatrième THSF, où il y aura une partie de l'équipe du supplément week-end qui sera là. C'est du 24 au 26
la plus belle.
Quand je dis la partie, c'est exactement.
C'est ça.
Voilà.
Une sacrée partie, n'empêche.
Non, mais c'est bien, il y a des manifestations ici qui n'intéressent qu'une personne dans le Supplément Week-end, mais on en parle quand même, et comme ça, comme il n'y a qu'une personne qui y va, ça suffit pour dire que le Supplément Week-end
y
sera.
Ok, ça c'est pour Thomas, hein, puisque après tout, les jeux, s'il aime les jeux, moi j'ai ça pour lui. Voilà, perdu, les jeux de 20h. Ça te fait ton enfance, ça.
Enfance.
Je suis de 20h, moi je suis en 79, donc
ouais,
moi c'était
plutôt,
pas.
L'Académie des Neufs, quoi.
moi c'était plus tard.
Elle est pas mal, elle est absolument pas mal. Avant qu'on s'étripe plus, hop, le.
Range ton couteau.
À mon avis, il va encore avoir de l'étripage tout à l'heure. Le premier magazine culturel sur la bande dessinée et les arts visuels, Zoo, le mag. Donc, le numéro 47 d'avril-mai est arrivé. Enfin, plus exactement, il était arrivé. Je l'avais pas encore lu.
Il y a plein de post-it, attention. Hein.
Avec un dossier sur Long John Silver, le dernier pirate. Encore une fois, dans le sujet, donc la bande dessinée, qui Donc de Xavier Dorisson et Mathieu Loffray, voilà, c'est chez Dargaud. Donc le quatrième tome qui est arrivé, qui est en chronique. Relativement peu de dossiers spéciaux hein, quand même dans ce zoo, le mag. Il faut dire qu'ils en avaient fait pas mal. La dernière conquête donc sur le nouvel Alix, le 32e tome, donc scénarisé par Géraldine Rayou et dessiné par Marc Jailloux, qui est considéré comme étant revenant donc au niveau de la série, à part le spin-off bien évidemment qui a été fait par Bajram, Alix Senator.
C'est pas Bajram qui l'a fait, c'est Valérie Mangin.
C'est Valérie Mangin, pardon, excusez-moi. Et ça n'a rien à voir avec une marque de voiture, contrairement à ce que l'on pourrait croire.
Lâche aujourd'hui.
Oui, on est en pleine forme.
Non, un partout. Attends, rigueur quand même. Je compte
les points, un partout.
Cellule Poison, donc le cinquième tome s'appelle Contine de Laurent Astier chez Dargaud. Là aussi, ActuaBD dit que c'est vraiment un polar français pour une fois parfaitement réussi.
Laurent Astier, c'est un rapport avec Alexandre?
Non, Astier, pas du tout, même s'il est lyonnais.
À Lyon. Yeah,
un petit dossier sur Don Rosa avec une interview qui a été faite lors de son passage à Angoulême en 2005, puisque Don Rosa est actuellement réédité en intégrale. Hein, c'est le dessinateur historique de donc le Picsou, ah. Je vais y arriver, voilà. Donc c'est les grandes aventures, hein, je veux dire la grande épopée de Picsou, c'est actuellement en parution chez Glénat et c'est des gros volumes. J'ai franchement apprécié hein, l'intégrale sur Mickey, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Il y a un bon boulot qui est fait et une interview d'un mangaka qu'on apprécie beaucoup ici. Il s'agit de Takehiko Inoue lors de son passage à Paris. C'est à propos non pas d'un manga qui vient de sortir, mais de son carnet de croquis qu'il a réalisé à Barcelone en allant sur les traces de Gaudi.
Oui.
On l'a connu pour son Slam Dunk, hein, qui a été son premier manga qui a été traduit en France, qui est une BD sur donc le basket. Et par la suite sur Vagabond, qui est une histoire d'un Ronin, donc d'un vagabond dans le Japon médiéval avec une épée. Et voilà, tout ça c'est donc dans Zoo le Mag numéro 47 avril-mai que l'on peut trouver dans certains.
C'est bien résumé cette époque, un vagabond avec une épée.
Avec une épée. Et bam!
Dire que c'est un samouraï mais qu'il n'a pas de maître et que c'est pas un redresseur de tort mais que voilà c'est...
Non mais je pense que tu aurais dit un sabre, ça aurait mieux passé déjà avec une épée.
Mais je vais faire
non
pareil,
mais je te rappelle que tu as parlé de sabre et de gros nichons la dernière fois et que depuis dans cette émission c'est connoté
de
chaque
poumon.
Fois qu'on parle de sabre.
Il parle de poumon.
Poumon.
Tu m'attends dit poumon. Et je peux
enfin,
le prouver.
Bref, d'accord. Attention aux fins de cure-dents, ils peuvent
tout à fait
arriver au coin de la rue là et frapper à l'improviste.
On ne donnera d'ailleurs pas l'adresse qui est au Ah t'es comme ça toi.
Ah ouais, comme ça on balance.
Ah, elle est comme ça.
Ça me surprend autant que toi.
Mais oui, écoute. Chers amis, c'est l'heure du courrier hein. Courrier des auditeurs. Allons-y. Gaiement s'il vous plaît.
Ouais, après on fera les news de ce qui se passe sur internet, donc rejoignez-nous.
Alors aujourd'hui une chronique spéciale chroniqueur parce que j'ai reçu énormément de courriers qui avec des auditeurs qui s'interrogeaient au sujet de comment était fait un peu l'émission et vous chers chroniqueurs pourquoi êtes-vous arrivé là, pourquoi, enfin beaucoup de questions d'interrogations.
Oh là là.
Donc j'ai fait une sélection ce qui nous donne
fuis.
Une première question d'une charmante demoiselle qui nous dit « Bonjour, j'ai une question à poser donc à toute l'équipe d'Ascrit, Ultimatum, du Sport et Morgan. Tels des super-héros, vous protégez votre identité secrète au travers de pseudonymes, surtout Morgan parce que franchement personne ne s'appelle comme ça. J'aimerais savoir d'où vous viennent ces pseudos, signé la veuve rose qui aime les chamallows blancs mais pas les roses parce que ça fait nul. » Alors, je vous écoute.
J'y viens, j'ai une référence à chercher. Vas-y.
Alors, c'est tout con. Je cherchais un pseudo pour faire mon blog. Alors, j'essaie de trouver un jeu de mots avec Tom ou Thomas. Et puis, je trouve Ultimatum, c'est le premier qui m'est venu. Mais en fait, tu remarqueras que personne m'appelle Ultimatum ici. C'est...
Ça dépend des jours.
Ouais.
Si ça
dépend de Xavier.
Ouais. Le générique au début, peut-être.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Du sport. Tu t'appelais déjà comme ça avant que je te connaisse.
Bah ouais, parce que l'émission s'appelle Ça, c'est du sport.
Alors, ça fait donc, combien d'années que tu fais cette émission?
Donc il y a quelqu'un à un moment de la radio qui a décidé, bon tu t'appelleras Monsieur du Sport.
Monsieur du Sport.
C'est le mec qui fait l'émission Ça c'est du Sport, Monsieur du Sport.
Et cette émission, elle a combien d'âge?
Combien d'années? Elle a commencé en septembre 87.
D'accord.
Ce qui ne nous rajeunit pas.
C'est 26 ans.
Ouais.
26 ans.
26 ans d'émission, ça c'est du sport.
Ça se fait, ça. Un petit quart de siècle.
Je dis.
Bah ouais, carrément.
Moi, bon, Morgan, d'où se vient ce pseudo?
Alors ça a été très calculé. Un jour j'ai regardé ma carte d'identité et puis elle est marquée Morgan, donc je me suis dit tiens, ça peut être sympa.
Cool.
Donc non, j'en veux pas à ma mère du tout, mais, ni à mon père.
Mais si t'es fan de Michel Morgan?
Non. Peut-être les magasins. Morgan,
c'est un coup bas. Ah oui.
Ou la chanson de Renaud, Morgan de. Je ne sais pas. D'accord. Je chercherai. Et toi alors?
Eh ben, malgré la prise de ce pseudo féminin, je tiens à signaler donc à Jean-Luc Masson, sénateur de la Moselle UMP, que non, je ne révélerai pas qui je suis en réalité. Ah non, c'était pas la question. oui, parce que ce sénateur revient à la guerre sur il faut que tous ceux qui écrivent un blog en France, on ait leur nom clairement affiché, leur adresse et tout ça.
Ouais.
C'est une ambiance.
Ah bon?
Oui, il revient là-dessus, alors qu'on est protégé par la LCN. En fait, ça vient tout simplement de jeux de plateau que je faisais à une époque de Wargame, de Warhammer. Voilà, donc ça venait à la fois d'un serveur dans le bar où on jouait qui disait « Ah, lui, c'est Screech ! Non, Save by the Bell ! Sauvé par le gong !» À donc l'époque, il n'y avait pas les DivX pour regarder en version originale.
Et le DAS, tu l'as rajouté après?
Non, c'est parce que pour ceux qui jouent à Warhammer, ils savent que l'Empire a une certaine proportion, à un certain Northron. Donc c'était Daskritch.
Bon, chère veuve rose, tu as eu la réponse à tes questions.
C'est bien, j'ai appris des trucs, je savais pas en fait.
Mais oui, voilà, c'est intéressant.
Je savais que c'était sauvé par le gong, mais le DAS, je savais pas d'où ça venait.
Bah voilà, maintenant on le sait, c'est enregistré.
Moi, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave.
C'est comme Oblivion, tu vois, c'est pareil. Ok, une deuxième question d'un Audi écrivain. Donc si je suis un Audi lecteur, alors vous êtes des Audi récepteurs. Donc chers Audi récepteurs, bonjour. J'ai deux questions pour toute l'équipe. Quelle a été votre première BD à vous avoir donné goût à la lecture d'autres BD? C'est une première question. Et la deuxième, et quelle a été celle qui a failli vous dégoûter du monde de la BD? Merci.
Alors, toute première, ça devait être Gaston Lagaffe.
Ah,
sérieusement. Et par la suite, et j'avais un voisin, et je lui rends hommage d'ailleurs, parce que c'était un magnifique joueur de hautbois vénitien qui a disparu beaucoup trop tôt. Et c'était un voisin formidable, qui n'avait pas eu de BD dans son enfance. Et lui qui se retrouvait à jouer devant François Mitterrand à tous les grands sommets internationaux avec son orchestre de chambre, et ben il a dit je vais m'acheter plein de BD. Et il était fan de Jacques Martin, donc il y avait les Le Franc, et je les ai dévorés quoi chez lui, vraiment. Donc voilà, Jean-Louis Pradal, j'ai vraiment une pensée pour lui, parce que c'est vraiment lui qui m'a donné envie. Après, la BD qui m'a écœuré, c'est une BD qui était sortie aux Humano début années 90, qui était scénarisée par Tom du diptyque Tom et Jean-Henri, hein, qui faisait Spirou à l'époque.
Ouais.
Et c'était la première bande dessinée pour ordinateur.
Pour ordinateur?
Ouais, faite sur ordinateur.
Ah, t'as pas aimé les dessins encore?
Je te laisse deviner la puissance qu'il fallait pour faire tourner un Photoshop
c'était,
à l'époque.
C'était quoi, c'était Paint?
C'était franchement en 60 dpi, t'avais des gros pixels, c'était limite illisible puisque fallait vraiment beaucoup de puissance pour faire des.
Donc toi, c'était pas l'histoire en elle-même, c'était vraiment le.
L'histoire était batou.
Ouais.
Et le dessin était juste à chier. Et celle-là, c'était quand j'étais fou et que je voulais acheter plein de BD pas cher. Donc je m'achetais des BD d'occasion un peu partout. Et je l'ai acheté comme ça. Et après, quand je l'ai lu, j'ai fait. Oh, la bouse existe. Et c'est là que j'ai su pourquoi le milieu de l'édition est tombé dans une grave récession entre 89 et 94. Il y avait vraiment eu un gros pic de grosse merde qui était sorti à un moment. En même temps, c'est à ce moment-là d'ailleurs que la plupart des revues de prépublication ont disparu. Hein. C'est pas un hasard.
D'accord. Et alors vous, Thomas Duss, aucune idée?
Moi, la BD, c'était... dans des circonstances particulières, puisque moi j'étais à l'hosto et on m'avait offert mon premier Astérix, c'était les lauriers de César. C'est les lauriers de César où ils sont bourrés
Oui. Oui.
Et en fait, c'est une BD. Je suis entré dans...
Où ça se finit. Oui. C'est pas du laurier, c'est du thym.
Ouais. Et en fait, c'était une manière assez particulière d'entrer dans le milieu d'Astérix, puisque c'est une BD quand même assez à part dans l'univers. Et puis, en plus, ça se finit sur un truc doux amer, puisque l'auteur, il va d'une petite morale à la fin en disant, eh oui, c'est le début de la décadence de l'Empire romain, parce que maintenant, ils vont se bourrer la gueule sans penser au lendemain et tout. Et puis, c'était space, mais ça m'a pas freiné. Sinon, première passion pour la bande dessinée, c'était avec plus tard en fait, c'était avec la série Dragon Ball éditée chez Glénat et que j'ai dû relire 30 fois au moins.
Dont la traduction était pas trop pourrie en plus, donc ça gardait une partie des blagues.
C'est juste
quoi.
Que en fait, c'était dans le sens lecture droite gauche et ils l'ont mis en miroir. Donc à un moment donné, il y a Sengoku qui se gratte là avec le doigt droit, et puis il y a un personnage qui dit, sans te regarder, je sais que tu te grattes avec le bras gauche. Et puis il dit, comment as-tu su? Alors moi, j'ai relu 15 fois, je comprends pas. Voilà. Et sinon, il n'y a pas de BD qui m'ait dégoûté, parce que je passe outre. Quand je tombe sur une mauvaise BD, je la lis pas en entier. D'accord. Puis je me dis que non, c'est pas rédhibitoire.
Ouais, moi pareil, hein, pas grave. Bon, si c'est une mauvaise BD, c'est mauvais, c'est tout. Et puis ça s'arrête là, quoi. Mais sinon, moi, autant que je me souvienne, enfin, de toute façon, bon, bah, c'est parce que, j'étais abonné au journal de Tintin. Mais autant que je me souvienne, encore plus petit, j'étais tombé sur des trucs, mais je comprenais pas grand chose parce que c'était en allemand, mais c'était les Pim Pam Poum et les Katzen Jammer Kids, la version allemande, donc.
Ah oui, en allemand, donc c'était pas la version anglaise.
Ouais. Et il y a une image qui m'a toujours marqué. Alors, tu vois, c'est un truc qui m'a toujours marqué, c'est l'image où justement ils vont se planquer dans une buanderie. Et il y a un des trois gosses qui va tomber dans une machine qui est en fait un hachoir à viande et tout. Et donc, t'as le colonel, je sais pas comment il s'appelle. Enfin bon, ils ont des noms qui changent, qui arrivent pour chasser les mômes et qui met le hachoir en bas. Et puis là, ça a été une de mes premières frayeurs en BD d'enfant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Merde, il y en a un de moins. Enfin bon, et comme j'étais vachement jeune, ça m'avait vachement, vachement marqué cette histoire. Mais sinon, c'est plus effectivement le fait de lire le journal de Tintin, puis Pilote également, et donc qui donnait un éventail assez large niveau BD, quoi. Et comme ça se passait à la bonne époque, dans les années 60, je veux dire, l'époque où la bande dessinée a vraiment éclos, on veut dire, et est devenue un art majeur, et est devenue un art distribué, et qui a pu s'épanouir également, c'est ça aussi, quoi, qui était également à l'origine, on peut dire, un petit peu en France, de l'épanouissement de pas mal de choses dans le domaine d'autres arts, dans le domaine de la musique également, quoi.
D'ailleurs, la BD fait partie des tu sais, on dit le 6e art, le 7e art.
C'est le 9e.
C'est le 9e, tu dis? Voilà, donc je l'ai lu il y a pas longtemps, donc c'est vraiment reconnu.
Et le cinéma, c'est combien?
Et le cinéma, le 7e.
Bravo, tu es mûr pour faire ta chronique tout à l'heure. Ouais. Et sinon, toi, alors, tes BD?
Moi, BD, je pense que je me rappelle des premières BD que je lisais quand j'étais gamin. J'avais une carte à la médiathèque, là où j'habitais avant, donc ça devait être chez mon père à Verdun-sur-Garonne, et je piquais tous les petits Spirou et Blake et Mortimer après. Et petit Spirou, ouais, j'ai adoré. Il y avait un petit côté un peu décalé, un peu voilà, je sais pas, ça m'a. Je suis rentré là-dedans, par là, voilà.
D'accord. Et les BD qui t'ont dégoûté?
Pour l'instant, non.
Bon,
pas,
ça va.
Ou comme toi, je lis pas.
Bon.
Enfin, quoi bien. Que je l'ai fini.
12h22, vous écoutez le supplément week-end numéro 348 sur Radio FMR. Et ma foi, c'était très introspectif. Rapidement, quelques news de l'année sur le réseau social. Très rapidement.
Encore des news?
Très rapidement. Il y a une news qui est passée sur Slashdot, qui est un site de revue vraiment d'informaticiens. Et la question était assez intéressante, c'est... Qu'est-ce que les états-majors militaires pourraient apprendre en regardant Battlestar Galactica, le remake? C'est surprenant, et en fait, non, c'est tout à fait logique, puisqu'on est dans une informatique de plus en plus présente sur le terrain. Et donc, qu'est-ce qui se passe le jour où l'informatique tombe en panne? Et le comparatif est osé, c'est ils disent, bah, en fait, c'est comme quand la France a cru arrêter les Allemands avec la ligne Maginot, et que les Allemands ont trouvé le moyen de détourner derrière et qu'ils ont coupé leur ligne arrière. Et là, ben, ils étaient complètement dans la merde. Il y a des artistes, un collectif artistique qui s'appelle The United Geek qui a rendu hommage aux visiteurs du futur. C'est des dessins archistisés. Je sais pas si tu les as vus.
Je les ai vus, ils sont super.
Ah, franchement, ils sont vraiment énormes. Et tout à l'heure, on va parler de Iron Man 3. Des Thaïlandais ont suédé la bande annonce.
Génial.
Donc, ah mais tu l'avais pas vu.
Non, je ne l'ai pas vu.
Je croyais que tu étais abonné au compte Twitter de l'émission.
Mais je suis abonné, mais je n'ai trop de tweets. Des fois, je la repasse le dimanche.
Faut aller dans les, dans les favoris, des fois. Bref, tout cela,
en direct,
allez, on va y venir. Thomas s'est barré.
Il en avait marre.
12h24 sur,
sur l'horloge
sur l'horloge atomique de la radio. Ben du coup, ben voilà, ben on va prendre un petit peu d'avance. Je vais rajouter une ou deux pubs. Voilà, zou et c'est parti.
Go. Moumout Prod, Farclad, Anarchophone, Propaganda est présente. Le 10 mai 2013, au Mojo, jeune industriel de Montaudran, Chaos Urbano, Street Punk Madrid, Sansa Yuma, Punk Legend, UK, Totem Curse, Punk Hardcore Barcelone, Arrache, Hardcore Trash Toulouse, et la gâchette Punk Rock Montréal. Chaos Urbano, Sansa Yuma, Totem Curse, Arrache, la gâchette, c'est au Mojo le vendredi 10 mai, start 20h, PAF 14€. En partenariat avec Radio FMR. Moumout Prod, Farclad, Anarchophone.
Le vendredi 10 mai, Quali District vous propose une soirée hip-hop beatmaking inédite avec pour la première fois à Toulouse le beatmaker parisien Mr. Troy et le producteur belge Paul Dour. Début de soirée à 19h avec DJ Nice, after toute la nuit assuré par Gones the DJ dans une ambiance black music soul boogie. Soirée beatmaking au Saint-Dessin à Toulouse le vendredi 10 mai dès 19h. Toutes les infos sur www.qualidistrict.com.
J'écoute la pub. Ah, tu m'interromps tout le temps.
Thomas, donc une interview que de pirates.
Oui, alors nous allons vous diffuser l'interview du dessinateur Adrian, qui est un dessinateur espagnol chez les éditions Ankama, qui avait dessiné l'album toujours dans la collection Wakfu Heroes. Donc ce sont des personnages issus de l'univers Wakfu, du dessin animé et du jeu vidéo. Donc il avait fait le Corbeau Noir et il avait dessiné le premier arc de Remington que je crois que tu sport a lu. Et là cette fois-ci nous l'interviewons pour sa nouvelle BD qui est sortie, qui s'appelle Tango Mango, et cette fois-ci il est tout seul au dessin et au scénario. Mmh. Et c'est effectivement une bande dessinée de pirates très colorée. Je vais parler de la BD avant de diffuser l'interview du coup. Alors oui. Voilà la BD, elle est là. Voilà, je fais passer.
C'est
alors,
vachement sport, bien pour ceux qui n'ont pas payé à redevance couleur.
Voilà. Donc Tango Mango, donc c'est en l'an 982 de la mythologie Wakfu et dans les eaux tièdes, la contrée la plus au sud du monde des 12, constituée par des milliers d'atolls. Une eau peu profonde, de l'eau turquoise, des palmiers, des galions, autrefois sillonnés par des pirates. Autrefois, car ces derniers ont tous disparu, anéantis par le nouveau gouverneur Pupo Mogrovero. Ça rappelle un peu certains trucs qu'on a vu au cinéma avec un certain Jack Sparrow. Alors c'est marrant parce que donc on est collection Wakfu Heroes. On y note plusieurs références à Astérix en fait, puisque c'est un gouverneur qui gouverne de manière totalitaire en ayant atomisé tous les pirates. Et par contre, il y a quelques pirates qui luttent encore et toujours, qui sont dans leur petit atoll perdu, deux petits pirates, dont un qui est plutôt boulot et un peu teigneux, très petit.
Ils ont une petite potion.
Non, ils ont pas de potion. Par contre, ça s'arrête là. Alors c'est donc là la référence est là. Alors les deux pirates, c'est Encre Noire. Donc alors du sport, fais pas semblant de feuilleter puisque tu l'as déjà lu. Il est chez toi puisque je l'ai reçu en double exemplaire. Alors. Les deux pirates, donc il y en a un, c'est un Kralamour, c'est un Kralamour rose. Donc là, dans la mythologie Wakfu, ce sont des petites créatures, des petites pieuvres qui sont un peu mimi. Alors lui, il s'appelle Encre Noire, puisque en jouant avec son encre noire, il peut se faire des tatouages, qui bougent et tout, un peu comme Rorschach. Et sa copine, c'est pas vraiment une copine, c'est plutôt une fille adoptive. En fait, c'est Hélène. Donc, c'est une jeune fille brunette qui fait un peu penser à l'univers des gitanes. Et sur, alors, au début, tu te dis, bon, c'est une BD de pirate assez colorée, fraîche et tout, mais c'est pas de quoi casser trois pattes à un canard parce que bon, voilà, c'est les atolls, l'eau turquoise et tout, les bateaux, les canons, bon, c'est du déjà vu, il utilise les codes. À un moment donné, tu vois qu'il y a tout un bestiaire qui est derrière, et dedans, t'as un trio de pingouins. Ils font partie de l'escadre du gouverneur. C'est plein de petits pingouins qu'ils envoient pour aller chercher des objets. Là, en l'occurrence, le gouverneur cherche absolument un talisman super précieux. Et si vous voulez feuilleter, si vous voulez vous mettre devant les pingouins, vous tomberez dessus. Ces pingouins sont géniaux. On dirait les pingouins de Madagascar. Ouais. C'est vraiment, ils ont ça caractère. Alors, en discutant avec l'auteur, dont on va entendre l'interview après, et ça c'est hors champ, donc vous l'entendrez pas à l'interview. Les trois pingouins, en fait, ce sont les trois personnages principaux du The Big Lebowski. Et une fois que tu le sais, alors t'as Ferm Ladany, t'as donc Steve Buscemi, John Goodman et Jeff Bridges. Et alors une fois que tu sais ça, tu dis ah ouais, mais trop, c'est exactement c'est ça. T'en as un qui est plutôt gros et qui passe son temps à faire la gueule. Un autre qui se sent un peu exclu et qui arrête pas de la ramener. Et l'autre qui lui dit ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et le leader qui est complètement un peu dépassé, qui on va dire qui se trimballe les deux autres comme des boulets. Et alors là vraiment, il relance l'intrigue quand tu les as. Et puis à la fin, ça t'ouvre de nouvelles perspectives parce que le gouverneur fait appel à des forces occultes qui sont des créatures très très belles et un peu sombres qui doivent partir à la recherche, sillonner les mers à la recherche de leurs trois frères. Et là tu vois que il leur donne des ordres, mais ils sont obligés d'obéir suite à un pacte mystérieux dont il n'est pas du tout fait question ici, mais plus juste effleuré. Et là tu vois que les éléments sont en place, les gens vont partir dans plein de directions différentes, et là tu te dis tiens, une BD vraiment intéressante sur des pirates qui s'adresse à plutôt un jeune public, mais devant lesquels les adultes peuvent aussi trouver leur compte. Alors c'est vraiment très rigolo. Il y a plein d'astuces scénaristiques, le fait par exemple que les deux pirates ils sont propriétaires d'un bateau qu'ils ont retapé. Par contre le bateau, tu te dis tiens, c'est bizarre parce que le bateau en fait c'est une imitation en bois, y compris les canons. Donc quand tu essaies d'allumer un canon, en fait tu t'exploses à la tête en mettant plein d'écharpes dans la peau. Donc tout ça c'est du toc. Alors au début, à un moment donné, ils essaient de rançonner un petit bateau, sauf qu'à un moment donné il y a un petit oiseau qui commence à picorer le canon, et puis il enlève des bouts de bois, donc il y a une supercherie. Voilà, donc mais très très drôle, qui se lit assez vite, mais voilà, avec tous les codes graphiques et scénaristiques qui se doit pour des BD pirates. Voilà, avec en plus c'est pas dégueulasse, c'est pas comme si ça se passait dans une mine où c'était tout le temps dans sombre. Alors voilà, c'est les merveilleux paysages, des couleurs vraiment qui tabassent et tout. Vraiment Tango Mango, une bonne série bien fraîche sur des pirates par Adrian chez Ankama, et voici l'interview de l'auteur.
Enregistré en Angoulême donc en janvier dernier.
Adrian, désolé, je vais commencer par une blague.
Adrian !
Bonjour.
Ah, je dois faire quelque chose, je sais pas quoi, mais c'est pas amusant.
Sérieux, Thomas ?
Oui, mais attends, tu vas voir, je l'ai refaite à la fin aussi.
Non, c'était une blague par rapport à Rocky. Non, je pense qu'on te l'a déjà faite, Adrian.
Non, je l'écoute tout le temps. Ça me fait pas rire.
Pardon, bon d'accord. Alors à ton accent, on devine que tu viens de l'autre côté des Pyrénées. Présente-toi, quel a été ton parcours ?
Et bon, mon parcours professionnel, j'ai commencé avec le Corbeau Noir, avec Ankama, toujours avec Ankama. Et je fais aussi Remington, qui est sorti en comic book, après un recueil. Et finalement, je fais ma propre BD avec mon scénario, ça s'appelle Tango Mango, tomez un, achetez-le. C'est amusant, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a tout.
Alors on connaît ton parcours chez Ankama. Avant, tu faisais quoi ? Comment tu as été repéré par l'éditeur ?
Bon, avant, je dessinais aussi pour vivre, mais comme freelance, pour la publicité, je fais des storyboards, un peu d'animation. Et c'est tout, je n'ai pas trop bossé avant de faire la BD. J'ai beaucoup étudié.
Après l'histoire d'un vieux qui fait peur aux gens en se déguisant en corbeau, un album sur un voleur, maintenant une BD sur des pirates. Alors tu t'es spécialisé dans les filous, les vauriens, les brigands.
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je pense que j'aime ce type de personnage, même si seulement le scénario de Tango Mango est à moi. Mais j'aime toujours le scénario, le personnage, disons méchant. Bon, et surtout quand ils sont méchants de profession, mais pas méchants de cœur.
Est-ce que, pour parler de Remington, est-ce que le fait de le prépublier en comics, est-ce que ça a changé ta façon de travailler sur l'histoire ?
Et bon, je n'ai pas fait l'histoire pour Remington, mais...
Sur le découpage ou le dessin ?
Je dirais non, en fait. Et non, ça n'a pas trop changé. Sauf que quand je finissais un... Normalement, le scénario de suivant n'était pas fini. Alors, il y a eu de pauses qui m'ont fait être un peu nerveux pour continuer. Mais c'est tout. Pour le reste, c'est normal.
Alors, tes albums jusqu'à présent sont tous issus d'un univers existant, celui de Wakfu. Quelle liberté est-ce que tu as par rapport au design qui existe déjà, les personnages ?
Ok. Bon, pour Remington et les Corvons Noirs, j'ai fait une interprétation très personnelle, je trouve, surtout pour Remington. Mais Todd, le scénariste et créateur de Remington, il a bien aimé. Et j'ai eu beaucoup de liberté, toujours, pour faire ce que sort de mes crayons et de moi. Je pense que je fais ma propre version des personnages, toujours. Et finalement, pour Tango Mango, je fais le dessin des personnages, c'est à moi. Alors, j'ai eu toujours beaucoup de liberté, même si c'est tout inclus dans le monde de Wakfu. Et on a fait, normalement, à la fin de l'album, on regarde tout l'album et on dit, ok, on doit changer quelques mots, on doit peut-être changer ses fonds et ajouter quelque chose de plus typique du monde de Wakfu, mais c'est tout.
Dernière question sur Remington. Est-ce que tu t'es amusé à regarder les mangas d'Ofus pour voir comment il était dessiné ? C'est pas lui, c'est son ancêtre. Est-ce que tu as vu le dessin animé, les autres adaptations ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et est-ce que ça a influencé ton travail, même si je crois que tu ne bosses plus sur la série maintenant ?
Et oui, je suivis ce qui est fait sur Remington. En fait, c'est un ami à moi en Espagne qui est en train de faire le numéro 3. Et bon, pour le dessin animé, j'ai commencé la série maintenant. Je n'ai vu que les épisodes où les personnages de Tango Mango apparaissent, qui j'adore cet épisode, vraiment. Je pense qu'ils ont fait un beau boulot et que les personnages sont mes personnages, comme je les avais pensé. Alors, je trouve ça très réussi. Et alors, je me suis dit, bon, je veux voir toute la série du principe, parce que je la connaissais pas encore. Ça me fait un peu vergogne, hein, honte de dire ça.
Oui, c'est vrai, c'est pas très corporate, surtout que t'as l'attaché de presse qui est juste à côté de toi.
Et oui, elle me regarde comme un peu comme ça, oui. Oui, mais je veux être honnête, tu vois.
Est-ce que tu... passons à Tango Mango à présent. On pourrait dire que c'est le croisement entre Pirates des Caraïbes et Astérix, pour les irréductibles petits pirates dans leur coin. Est-ce que cette présentation te convient ou pas ?
Oui, toujours. Si on met Astérix et Caraïbes dans la même phrase, ouais. Oui, je pense que c'est une belle description. J'adore Astérix. Je pense que c'est la première BD que je lis dans ma vie. Et c'est ça que j'ai essayé, mélanger l'humour, un peu le style du Monkey Island. Et ouais, je trouve ça bien.
Au contraire de tes deux premiers albums chez Ankama, dans celui-ci, tu écris aussi, tu crées les personnages. On a l'impression que tu t'es beaucoup amusé là-dessus. L'univers est moins noir et on est plus dans la comédie, en fait. Donc, est-ce que c'est la vraie personnalité d'Adrian qu'on voit ici dans Tango Mango ?
Oui, bien sûr, j'ai fait l'histoire et j'ai créé le personnage. Alors, le personnage, ils sont moi, je crois. En fait, aujourd'hui, je pensais qu'ils sont un peu de côté de moi, de ma personnalité, où Encre Noir serait la part la plus rationnelle, la plus contrôleur. Ils pensent beaucoup et beaucoup trop. elle est un peu pessimiste et elle a cette part plus aventurière, plus enfant qui ne pense pas. Elle seulement veut se rioler et elle est dans les moments, dans l'instant, tout le temps.
Alors tu as créé plein de personnages dans Tango Mango. On a les pingouins, les deux héros, on a les Vovodounes aussi, les créatures noires, les Vovodounes que tu vois, qu'on voit dans l'album. Est-ce que avec tous ces personnages, tu n'as pas eu peur à un moment de te perdre un peu au niveau de la construction?
Ouais, je pense que c'est peu. Bon, ça a été conçu comme une seule histoire et après on l'a divisé dans trois tomes. Alors ça va être trois tomes et on va bien fermer tout. Toute l'histoire de Vovodoun, toute l'histoire des personnages. Et du méchant, Poupo. Alors tu deviens fermé. Mais c'est vrai que dans les premiers tomes, il y a beaucoup de personnages. Mais tu vois, dans la chanson de Feu et Glace, il y a beaucoup de personnages aussi et ça a marché. Alors ici, ça a marché.
Si tu devais emporter ton œuvre préférée sur les pirates, que ce soit en film, en livre, en bande dessinée, avec toi sur une île pour picoler du rhum, qu'est-ce que ce serait que tu emporterais avec toi?
C'est pas. Et bon, je suis sûr que j'emmènerai avec moi le Monkey Island, le numéro 1, et une vieille computer. Oui. Et je jurerai là, sous l'ombre d'un palmier, mais je serai heureux.
Alors tiens, c'est la première fois que j'interviewe un espagnol. Je disais, c'est la première fois que j'interviewe un espagnol et en plus qui me parle d'Astérix. Qu'as-tu pensé de l'album Astérix en Hispanie?
Je me souviens pas trop bien, mais je me souviens que je le lis comme enfant et je me suis beaucoup amusé. Après, avec les années, il a commencé à me fâcher toujours les topics sur les Espagnols, mais ils sont partout et si c'est Rossini qui l'écrit, alors ça me fait rire quand même.
Mais Adrian, merci beaucoup.
À toi, et j'espère que les gens me comprennent mon français un peu merdeux, mais merci.
Ouais. Une interview qui s'est très bien passée, qui était vraiment sympathique. Malheureusement, il y a eu un petit souci.
Ouais, c'était au niveau du son, c'est que on n'a pas pu déplacer l'horaire de l'interview à un horaire où il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on était dans le bar à côté des bulles où l'éditeur faisait toutes ses interviews et on était pendant l'heure de pointe, c'est-à-dire vers 17h, là où les gens c'était le comment on dit le time
rush.
Non, ouais, pour les
la bières, hour.
Ouais, la pi hour, voilà. Donc voilà, on avait pris une microscopique table dans un coin et par contre on était exactement sous les haut-parleurs et dans le prolongement du micro forcément.
Donc c'est pour ça qu'on entend des pubs au bout d'un moment et aussi que vous qu'on n'a pas mis de fond sonore et du coup vous avez dû peut-être sentir que la musique était un peu hachée parce qu'il s'entendait très mal.
Oui.
Il y a eu un peu de difficulté.
L'essentiel c'est qu'on entend l'interview.
Voilà, exactement.
Mais après il a l'air super sympa.
Il était tout content de pouvoir parler de sa BD. Donc première BD qu'il faisait intégralement avec le scénario. Donc Tango Mango, dessiné par Adrian.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le même style là?
Alors, toujours dans l'univers Dofus et Wakfu, là je vais faire un peu plus rapide, donc c'est Dofus Monster, hors antenne, Morgan me disait, mais est-ce que ça a un lien avec le MMORPG? Oui, tout à fait. Car le MMORPG s'appelle Dofus, il y a eu une suite qui s'appelle Wakfu, qui se déroule 1000 ans après. Mm-hmm. Et Dofus Monster, c'est une série de mangas à la française, édité par ceux qui ont fait le jeu, qui sont Ankama, et dont chaque numéro est consacré à un monstre du jeu.
Okay.
Donc chaque tome est un one-shot indépendant. Le truc, c'est que la ligne éditoriale, c'est que c'est au format manga, donc en noir et blanc, avec des nuances de gris.
Mais voilà. À l'endroit,
voilà, de gauche à droite, puisque c'est à la française. Alors, cette fois-ci, c'est consacré au monstre Koulos. Donc, c'est un crackler. Donc, il y a plein de catégories de personnages dans ce type de jeu. Et donc, les crackleurs, ce sont des géants de pierre. Et Koulos, en fait, c'est un rasta.
Oui.
C'est un rastafari, Koulos. Okay. Voilà. Alors, je reprends mes notes.
Koulos, rasta. Ils sont allés loin. Hein.
Oui, voilà. Oui, non, c'est que des jeux de mots de partout. Donc c'est dans la vallée montagneuse de la mort qui tue, donc ça s'appelle la mort qui tue, mais l'orthographe c'est MORH apostrophe KITU. C'est le petit peuple des Koalak. Alors c'est comme des koalas, c'est des lointains cousins des Ewoks un peu, si vous, pour vous situer. Ah bon. C'est des mignonnes petites créatures.
Le koala Ewok, je crois qu'ils étaient croisés avec des yaks.
Et qui, alors c'est une tribu qui vit à l'abri des regards des aventuriers dans les montagnes parce qu'ils sont bien décidés à protéger le tofu. C'est un œuf magique qui est caché dans les galeries souterraines. Un peu plus loin, les montagnes voient s'affronter des craqueleurs puisque en fait les craqueleurs sont des créatures pacifiques qui vivent pacifiquement entre eux. En fait, ils s'attaquent pas les uns les autres. Par contre, il y en a un qui a pété les plombs et qui cherche des noises à d'autres. Et donc il y a un craqueleur qui meurt. Et donc sa pierre de vie en fait est cassée en deux. Et donc évidemment l'un des deux morceaux est trouvé par un petit koala qui s'appelle Coty. Et donc forcément dans l'histoire en fait Coty va commencer à avoir quelques pouvoirs et sa destinée va commencer à prendre une tournure pour le moins inattendue. Mais je n'en dis pas plus. Alors voilà, donc c'est donc comme je disais, c'est un album indépendant. Alors le scénario est de Philippe Zitka, le dessin est de Trasbill. Il se situe dans la lignée des plus réussis des Dofus Monsters puisque par exemple, ce sont des souvent les monstres chez Ankama sont des crétins, des débiles. Alors là où les scénarios vont pas, sont pas trop inventifs, c'est qu'ils s'attachent à décrire une tribu de débiles. Donc à la fin, tu vois que c'était des débiles. Ils se sont fait avoir comme des débiles. Mais bon, tu dis ouais, bon ben voilà, bon ben un Dofus Monster de plus. Ben là non en fait, puisque le personnage principal Koulos, c'est tu t'attaches vraiment à sa destinée. Et puis c'est quand même un personnage plutôt sympathique. Et donc c'est vrai qu'après quand tu rejoues au jeu et que tu l'affrontes, tu le vois plus de la même manière. Voilà du coup. Donc c'est ça justement qui fait le sel des meilleurs Dofus Monsters. Le premier c'était aussi à mon sens le plus réussi, c'était le Shenmue, puisque c'était une histoire d'amour déçu avec une petite fille. Alors c'était assez triste. T'avais aussi d'autres. Alors à chaque fois c'est une ligne scénaristique différente. T'avais Zato Ishwan puisque c'était un pastiche de Zato Ishi. C'était un panda alcoolo qui maniait du sabre aussi. Voilà, qui était dévoré par le démon de l'alcool. Et donc voilà, donc moi je trouve ce Dofus Monster Koulos, il est très il fait partie des meilleurs. D'ailleurs il y en a un sac d'herbe derrière dans la quatrième de couverture. Oh bah quoi, de l'herbe,
gazon quoi.
Ouais, voilà. En tout cas, c'est bien graphiquement parce que je trouve que justement les nuances de gris, comme en plus on s'attache à la destinée d'un craqueleur, puisque donc de la pierre, je trouve que les nuances de gris pour une fois servent vraiment à autre chose que dessiner des forêts, puisque ben, la couleur de la pierre c'est le gris, et puis alors du coup on voit ça se pique un peu plus. Et je trouve que ça fonctionne bien aussi visuellement. Donc voilà, donc un bon Dofus Monster Koulos dans toujours chez Ankama.
Au format poche à glisser avec votre goûter de 16h.
Voilà, et on finit avec la troisième BD, toujours chez le même éditeur, mais cette fois-ci c'est dans la collection Étincelle, donc c'est destiné à un plus jeune public, ça s'appelle Kéros. C'est le tome 1, scénarisé et dessiné par Ulysse Malassagne, qui vient de l'animation, en fait, ça a été le plus jeune admis à l'école des Gobelins.
Ah ouais ?
Ouais, ouais, donc c'est pas n'importe qui. Et donc c'est le jeune couple formé par Nils et Anaël s'apprête à passer un petit séjour à la campagne dans une vieille maison appartement à la famille de la demoiselle. Mais au fil des conversations, on voit que le jeune garçon, en fait, il est assez entreprenant, il veut faire plein de projets, il veut commencer à s'installer avec elle et tout. Et puis tu vois que la nana, elle est un peu refroidie, elle dit non, c'est bon, moi j'ai quitté ma famille pour avoir de l'indépendance, tu vas trop vite. Et puis tu vois que la nana, faut pas la faire chier, elle a du caractère. Et puis de longues séquences contemplatives qui viennent, le garçon aime bien la nature et tout, plein de pleines pages sans dialogue. Et puis une nuit, il se lève pour boire un verre d'eau et puis il voit qu'il y a du bruit dans la cheminée. Et là, il y a une horde de dragons qui sortent d'un univers parallèle, un vortex qui est apparu. Et après une baston où tu vois que la jeune fille, elle sait se battre et puis elle est pas du tout surprise de voir les dragons arriver. Et ben la jeune fille quand même elle est enlevée par les dragons et n'écoutant en une fraction de seconde il se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je me lance à leur poursuite ou est-ce que je reste là. Ben en fait il lance à leur poursuite juste avant que le vortex se referme et le voilà propulsé dans l'univers parallèle des dragons. Et donc ce petit moment où tout bascule dans une vie s'appelle le Kéros. Sauf que une fois dans l'univers parallèle, il s'aperçoit qu'il a d'étranges pouvoirs et que sa peau commence à se changer comme si des écailles de dragons poussaient sur sa peau. Alors au niveau visuel, moi ça m'a vachement fait penser à du Miyazaki.
Voilà, parce que vraiment les premières pages, franchement, carrément. Dans la nature, les arbres et tout, c'est magnifique.
À part le côté gaguesque, effectivement, des grosses lunettes, c'est vrai que voilà, on est en plein dedans, quoi.
Mais c'est vraiment très beau. Moi, je trouve, là, ça te donne envie d'aller à la campagne, quoi, dans cette petite maison. En plus, justement, comme tu disais,
loin
au niveau
du net. Oh.
Et au niveau du, ouais, t'as les smartphones aujourd'hui. Et puis, t'as les vraiment caractères.
Non, ça passe pas.
Et au niveau caractère design, ouais.
J'ai testé pour nous.
Si t'es chez l'opérateur à la couleur, là, tu peux. Et puis, même au niveau caractère design, le jeune héros avec ses gros binocles, je trouve, ça fonctionne bien. Ensuite, une fois chez les dragons, tu t'aperçois que, ben, en fait, l'histoire, c'est pas du tout l'histoire d'une maison. À un moment donné, c'est l'histoire d'une destinée, d'une fille qui fait partie d'une famille royale. Et c'est vraiment, ça me rappelle un peu du Nausicaa, un petit peu des contes de Terre-Mère. Vraiment, les films Ghibli, quoi. C'est. Alors. J'en dis pas plus. Kairos, c'est un. Si vous aimez vraiment cet univers de fantasy, de petits dragons et tout, c'est une BD. Vous pouvez vous précipiter dessus. Cherchez sur le net le trailer de cette bande dessinée. Le trailer. Je vous ai dit au début de la chronique, c'était un gars qui était issu du monde de l'animation. Il s'est monté avec un petit studio de deux autres de ses collègues. Le trailer, c'est un court métrage. Un court métrage d'animation, c'est à tomber. Tu vois le trailer, tu dis mais pourquoi ils ont pas fait ça en animation, quoi.
On le fait.
Et ce trailer est énormissime. Si chaque année maintenant il y a une tradition, c'est qu'ils élisent la plus belle bande annonce. Donc là forcément là il y a même pas besoin de compétition. À la fin de l'année, ça, c'est je peux vous garantir c'est celui-là. Moi j'ai été bien emballé par l'histoire. Pour l'instant c'est les prémices. Hein. Ça, je pense que ça va être une trilogie. Je sais plus, je l'avais noté, j'ai oublié dans combien de tomes était prévu. Mais voilà, Kairos tome 1 par Ulysse Malassagne dans la collection Étincelle d'Ankama. Et si vous cherchez aussi sur le net la collection Étincelle, vous verrez qu'il y a d'autres petites pépites. Alphonse Tabouret, il y a Anguille et Baldaquin dont on avait parlé ici, qui sont très très bien avec des rendus crayonnés qui conviennent à la fois aux adultes et aux gamins. Donc c'est vraiment une bonne collection et un très bon tome. Et là, Xavier est en train de découvrir le trailer.
Ah ou. Ah
voilà.
Ah oui. Putain, il est. Non, c'est clair que techniquement, quoi, ils assurent, quoi.
Et oui, on rappelle que c'est une bande-annonce pour vendre un livre.
Il y a peut-être eu beaucoup plus de boulot, à mon avis.
Ah oui.
Oui, c'est clair, il y a eu plus de boulot que pour l'album lui-même. En tout cas, très très beau et assez épique. Les références, donc on va peut-être les redonner.
Oui, Kairos, tome. Ah, ben oui, ben, je suis con, il y avait le. C'est un slash 3. Donc, premier tome d'une trilogie par Ulysse Malassagne chez Ankama dans la collection Étincelle.
Et de suite, une petite coupure musicale à John Pidou, Darkest Dream.
Thank you.
John Pidou, Darkest Dream, dans un enregistrement de 1946. Une ambiance très banjo, et pour cause du sport, là, il a vraiment trouvé une pépite.
Ah bah ouais, bah ça s'appelle Blackface Banjo, avec une couverture rouge, liseré de noir, très caractéristique, un dessin très naïf d'un nègre, on va dire, hein, d'un black, d'un jeune black, avec coiffé d'un petit haut de forme, on va dire
blanc,
enfin un petit peu difforme, hein, on va dire, c'est pas vraiment un haut de forme. Et bel objet, couverture cartonnée, et en plus c'est offert avec un poster. De plus, non, il y a pas que ça. Alors l'histoire, c'est l'histoire très simple de ce jeune garçon. Alors c'est assez paradoxal, non, mais ça peut se comprendre, quoi. Mais on connaît pas du tout son nom, on sait pas comment il s'appelle, on saura jamais comment il s'appelle, quel est son vrai prénom. On sait juste qu'il s'appelle au départ Blackface, plus ou moins. Et c'est un jeune SDF à qui il manque une jambe, et donc il a une prothèse en bois, et donc on le voit en train de faire la manche, et son seul trick, son seul tour qu'il peut faire, hein, pour un petit peu apitoyer les gens et les faire venir déposer une petite pièce dans sa sémille, eh bien c'est d'arriver à faire quelques tours sur sa jambe de bois, enfin essayer de virevolter dessus, et c'est tout, quoi. Et il y a un Irlandais qui le remarque et qui lui dit: ouais, écoute, ton numéro serait pas mal, serait sympa, tu pourrais venir jouer avec nous dans un spectacle itinérant. À l'époque, bon, c'était plus ou moins des medicine shows. Parce que l'Irlandais, en fait, il a un spectacle itinérant avec quelques petites attractions, mais ce qu'il cherche surtout, c'est
à vendre madame, guérit de tout.
Sa potion magique, sa potion qui guérit tout. Enfin bon, vous connaissez ça si vous avez lu les Lucky Luke, bien sûr. Alors, il s'avère que le jeune Blackface, bien un soir un petit peu de déprime, on va dire, s'amuser à boire l'élixir magique, juste pour se dire bon, ok, parce que bon, il boit jamais d'eau, en plus il boit que du whisky, et comme il n'y a plus de whisky, quoi, le soir dans la loge, il se dit tiens, je vais goûter cette espèce de truc. Et comme il y a un banjo qui traîne, il prend le banjo, une fois qu'il a descendu toutes les bouteilles, et il se met à jouer comme Dieu, le dieu du banjo. Et donc de ce fait, t'as l'Irlandais qui arrive et qui le voit jouer du banjo. Ouais, bah c'est comme ça, tu vas faire le roi du banjo et tout. Puis au fur et à mesure, il va devenir un mec vachement célèbre, qui va dépasser un petit peu le monde restreint et on va dire bas de gamme, hein, on va des minstrel show, pour monter en ville et devenir quelqu'un de très célèbre. En même temps, en linéaire, il y a une petite histoire d'amour avec une jeune fille, et on se dit que ouais, pourquoi pas, ce serait vachement sympa et tout. Il y a également surtout l'univers qui sous-tend dans ce bouquin, qui est très très intéressant, parce que c'est vraiment une période cruciale de l'histoire des États-Unis, parce que c'est là dans les années 20-30, on devine à peu près, c'est-à-dire c'est la fin de ce genre de spectacle, c'est le début des nouveaux spectacles avec du son, avec des trucs enregistrés, des appareils qui maintenant arrivent à enregistrer le son, des microphones pour que les chanteurs soient plus obligés d'utiliser des mégaphones pour qu'on les entende quand il y a trop de monde. Et on est vraiment dans le racisme ambiant, parce qu'en plus on voit que dans la troupe, l'ensemble des gens qui composent la troupe, en fait, sont des sous-hommes par rapport à ce que devrait être un homme dans la société américaine de l'époque, hein, l'Irlandais, c'est-à-dire le mec plus bas de gamme, le nègre, il y a également des émigrés français,
il y a un travestis,
il y a l'Indien. Alors c'est vraiment un concentré, on va dire. Mais là où c'est énorme et là où c'est très fort, c'est que pour expliquer tout ça, il y a une économie de dialogue et même de phylactère, on va dire, en général.
L'inspiration, elle est absolument directe, avec justement les frères Fleischer, avec les Disney en noir et blanc.
Ouais, c'est
incroyable.
T'as des fois des pages entières où il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il n'y a pas de bulle et tout, mais d'après le mouvement et d'après quelques mouvements, quelques traits des fois, quoi, des chasseurs arrivent à expliquer le mouvement, la situation. Il y a aussi les phylactères, quand l'Indien parle en Indien, Alors là, ça, c'est, ça donne des espèces de rébus comme ça, vachement imagés. Mais bon, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Alors bon, bah, c'est carrément énorme. Mais c'est là que c'est très très fort et que bon bah le bouquin a ses petits côtés, on va dire, où tu as envie de te pisser dessus, de rire et tout. Mais c'est quand même un bouquin où tu ressens une espèce d'émotion un peu douce amère comme ça. On va dire bon. Même la fin, on va dire, ne te fait pas remonter. T'as quand même un petit peu le moral, un petit peu en deçà. Tu te dis, ah putain, ouais, quand même. Mmh. Mais t'es également estomaqué par le propos et la forme. Là, c'est carrément incroyable. Hein, 140 pages, un truc comme ça.
Ouais, il est gros.
Tu lis ça du début jusqu'à la fin, tu te dis, waouh, mais c'est carrément un truc énorme, quoi. Je viens de lire quelque chose d'énorme. Alors qu'il y a vraiment une économie de dialogue. C'est vraiment le... Et bon, ça rend vraiment bien l'époque. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, bah tu t'imagines les tout à fait dedans.
Les fights après les spectacles où des blancs étaient grimés en noir et tout ça, c'est incroyable.
Parce que le personnage, il me fait penser à Robert Johnson. Je sais pas si vous voyez, c'est un bluesman des années.
Et c'est un petit peu évoqué, on va dire. Mais enfin bon, ça remonte un petit peu plus loin dans le temps que c'est Robert Johnson. C'est avant le blues, on va dire.
Ouais, voilà.
Mais ce qui est très intéressant, c'est l'atmosphère qu'on ressent à travers différents événements, à travers des attitudes de personnes par rapport à d'autres. Quand il rentre pour acheter le banjo chez le bonhomme le connaît pas, lui dit t'es qui toi, t'es un sale négro. Et quand il sait que c'est Blackface Banjo et tout, quoi, il dit ah bah non, mais je te le file le banjo, t'as que 3$, je te le balle. Mais quand il sort, le type va quand même balayer dans le magasin derrière lui. Quoi. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, quoi. Où bon bah c'est des petits, ça pourrait être des strips, quoi, à la limite, hein, des fois.
Je pense que ça a été pensé comme ça par moment.
Oui, c'est clair.
Ça fait vraiment justement les strips en syndicate dans les journaux.
Tout à fait. Mais c'est un strip en continu, c'est-à-dire que ça s'arrête pas. Hein, et c'est y a pas de cassure, rien, c'est harmonieux. Ça, c'est carrément une histoire énorme qui est pas singulière, on va dire, hein. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui va pouvoir s'élever. Jusqu'où va-t-il pouvoir arriver? Est-ce que justement le haut, le top of the world, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on y trouve son compte? Bon, bah, il y a des petits questionnements comme ça, quoi, qui sont tout cons, quoi. Mais bon, c'est un bouquin qui, quand tu le termines, ça donne envie de réfléchir à certains trucs. Ça te dit, bon, bah, mais oui, bah, effectivement, c'est comme ça que c'était, c'est comme ça que c'est encore. Et tu peux faire des parallèles également avec, bah, des fois des situations qui ont lieu actuellement ici, dans notre pays. Voilà, c'est Blackface Banjo, donc de Franz Duchazo. Alors j'ai appris, je me suis renseigné parce que j'ai pris le bouquin, je l'ai acheté, j'ai vu le truc, je l'ai acheté, j'ai commencé à lire et après je me suis renseigné sur le mec et il s'avère que le mec est né à Angoulême, quoi, tu vois, ça t'invente pas. Donc il a fait d'autres trucs avec Velman en particulier.
Mais là c'est
vraiment un one shot. Tout à fait personnel.
Je crois qu'il a participé à Ferraille et à Spirou aussi. Ouais. Et voilà, quoi, c'est ouais,
mais là, c'est vraiment un choix tout à fait personnel. Et un style qu'il n'avait pas avant, hein, je veux dire. Parce que c'est vraiment très épuré. Hein, c'est un dessin qui est vraiment très fin. C'est les ancêtres, hein, vraiment. Quoi. C'est le fondement de base de la bande dessinée à l'époque avec les maîtres qu'il y avait justement. Quoi. Ça, c'est très intéressant. Quoi. Et en faisant un petit peu plus de recherche, d'ailleurs, j'ai appris que c'était dans les Katzenjammer Kids justement qui avait eu pour la première fois l'inclusion des phylactères pour le texte. Parce qu'avant, ben, les textes étaient en dessous de l'image. Quoi. Et bon, on se rappelle même qu'en France, jusqu'aux années 50, les pieds nickelés sortaient comme ça, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, t'avais l'image et t'avais la bonne platée de texte qui était en dessous de chaque image, quoi. Donc, ça faisait pratiquement un bouquin à lire, hein, les pieds nickelés de l'époque. Je me rappelle ceux de Forton, ceux de Pelos, quoi.
Et je suis en train d'essayer de récupérer ta suite d'articles que tu avais fait en 2010 sur le banjo qui était, donc, si vous voulez en savoir plus, c'est, sur son blog.
Mysteredusport.blogspot.com.
Voilà.
Voilà, hop, et je l'envoie et ça vaut le coup et je suis sûr que maintenant ça va vraiment lui faire beaucoup plaisir. 13h03 quand même sur la poubelle des radios dans le supplément week-end sur FMR et il y a encore une sortie BD.
Parce que je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais ça c'est le bouquin qui va concourir pour un des 5 meilleurs bouquins de l'année 2013, tranquille.
Non mais il est sorti en 2012.
Ouais, il est sorti et fin 2012, était, quoi,
il
mais bon.
Il était dans la, il était, il me semble, dans la sélection du festival d'Angoulême.
À vérifier.
À vérifier, mais en tout cas, je ne suis pas sûr. Point de vue album, ça c'est une édition française un petit peu tardive. L'auteur, on ne le présente plus. Enfin, c'est un dessinateur, Naoki Urasawa, sur un scénario de Hokusei Katsushika et Takashi Nagasaki. Master Keaton, le premier tome, donc, est sorti dans la collection Big Kana chez Kana. Et Keaton, il est né d'une mère anglaise et d'un père japonais. Il aurait suivi des études à Oxford. C'est un archéologue reconnu, ex-commando des SS. Il a été instructeur du corps d'élite anglais de commando. Est-ce qu'il serait par hasard le Indiana Jones des années 80? Bon, pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est un inspecteur d'assurance. Il faut dire qu'il est prof intérimaire, il fallait bien qu'il se trouve un petit boulot, et c'est pas super bien payé, quand même. Alors, il est divorcé, et il a du mal à s'occuper de sa fille. Inutile de dire que sa vie semble reluisante. Sauf que dans la compagnie qu'il emploie, il y a des lords. C'est un ensemble, en fait, de particuliers fortunés qui investissent. Bref, c'est la Lloyds. Et disons que ses capacités à la fois culturelles mais physiques, elles sont souvent sollicitées pour faire des constats. Oui, on l'envoie pas au bout du monde pour faire les constats de tôle froissée. Non, en général, c'est des trucs qui envoient avec beaucoup de contentieux derrière. Donc, on va plutôt dire que dans le cas de Keaton, il a un mal fou à ne pas laisser de traces derrière lui. Alors, la plupart des chapitres sont des histoires quasi indépendantes, oscillant entre les enquêtes d'assurance au bout du monde, des rencontres fortuites de voyage, ou le mystérieux passé de ce personnage taciturne, mais au savoir encyclopédique. Alors, la série a un certain âge, elle a été produite à la fin des années 80, alors que le mur de Berlin était encore debout. Certains détails peuvent sembler un petit peu surréalistes pour les lecteurs, un peu jeunes et qui sont pas au courant. Mais d'un autre côté, on a déjà ce sens du détail passionné dans les décors d'Urasawa. Ça sent une documentation photographique assez fouillée quand il représente des ruines antiques ou quand il dessine les rues de Londres ou la cathédrale de Cologne. De ce côté-là, vraiment, il fait les choses bien. On l'a vraiment connu sur le détail d'une manière extrêmement précise. Par contre, le scénario est franchement parfois too much. On est loin des détails subtils qu'il a conçus pour la série Monster, mais cela reste quand même une excellente lecture et une bonne introduction pour ce dessinateur, ou justement pour ceux qui aiment bien justement le créateur de la série Monster. Master Keaton, le premier tome donc de la série, est sorti, dessiné par Naoki Urasawa et scénarisé par Hokusai Katsushika et Takashi Nagasaki.
Bravo.
C'est dans la collection Made in Shikana. Monster, je rappelle quand même que c'est une série qui nous avait beaucoup marqué, beaucoup plus que
C'est pas Made in, c'est Century Big Boy. Kana.
C'est Big Kana, pardon, excuse-moi. Donc Monster, c'était l'histoire d'un médecin japonais qui vit en Allemagne et qui a préféré sauver un gosse plutôt que le maire. Au début des années 90, malheureusement, le gosse va devenir un tueur en série. On avait vraiment beaucoup apprécié cette série à l'époque. J'avais dit, putain, si c'était adapté en live, moi je verrais bien une équipe de série allemande, parce que vraiment, il y a tout le côté Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest qui est très très bien rendu. Donc il faut quelqu'un de ce niveau-là. Et là, on apprend que la série va être adaptée pour la télé américaine. Sauf que...
Eh bien, c'est le nom d'un réalisateur assez connu, mais qu'on n'aurait jamais imaginé dans ce type de projet.
Absolument pas.
C'est Guillermo del Toro. Et oui, le gars qui a fait Hellboy, L'Orphelinat, qui a fait Le Labyrinthe de Pan, donc un univers plutôt visuel, plutôt avec fantasy, qui a longtemps été associé au projet The Hobbit, avant qu'il soit débarqué pour divergence artistique par Peter Jackson. Et ben non, c'est lui qui s'occupera donc de l'adaptation en série télé pour HBO de la série Monster. Alors c'est vrai que...
HBO, ça veut dire déjà de l'indépendance.
Ça veut dire aussi du cul de la violence, c'est bien.
Ah.
Pardon.
Il y a beaucoup de violence. Non, il y a vraiment beaucoup de violence dans Monster. C'est vrai que des fois, il y a des histoires d'amour. Mais c'est vrai que, quand tu vois un ancien Waffen SS qui décide de brûler, de faire un pogrom dans les années 90.
Non, mais Monster, Monster, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très prenant et très, très, très lourde parce que c'est, tu peux à un moment donné t'attacher à un personnage développé sur un tome entier pour finalement le voir crever à la fin du tome, quoi. C'est vraiment une violence psychologique où tu sens que Johan Lieber, le méchant, c'est le mal incarné, ce type. Et alors ça contraste bien avec justement le profil du docteur Tenma, parce que lui c'est vraiment comme ça, un médecin, c'est plutôt la bonté incarnée, c'est quelqu'un qui va sauver les gens. Alors après, quelques mots sur Guillermo del Toro. Je vois que Xavier a écrit un petit laïus.
Enfin, donc, c'est les infos sorties sur Allociné.
Ouais, donc del Toro, enfin, son actualité, il y a aussi l'atomique, le mastodonte, le blockbuster estival ultime de cette année, c'est Pacific Rim qui sort en juillet. Donc Pacific Rim, c'est juste c'est Pat Labore au cinéma avec des gros monstres et des gros mechas.
Laisse-moi deviner, tu veux faire une spéciale?
Oui, bien sûr.
On fera
une spéciale sur Pacific Rim.
Bon, on y reviendra dans ce cas-là.
Del Toro, donc il est associé à ça. Il a aussi en effet attaché à une série Hulk, ça c'est vu sur Allociné, et un drama décrit comme Hitchcockien. Del Toro, je pense qu'il veut effectivement se rattraper du temps perdu à travailler sur The Hobbit pour rien, donc je pense que là il a la furieuse envie de tourner. Donc en plus Del Toro il est plutôt rapide, hein, même s'il fait beaucoup de blockbusters genre Hellboy, moi je suis méga fan de ce réalisateur, donc moi je dis banco, puisque voilà, on va voir comment s'entrechoque l'univers d'Urasawa et de Del Toro, on va voir.
En tout cas, beaucoup de fans disent ouais, mais il avait plein de projets qu'il avait lancés, qu'il abandonne et tout ça. On sait jamais. En tout cas, HBO, comme tu dis, décomplexé pour une série américaine. Dans l'écriture, beaucoup moins rythmée qu'une série qui passe sur les networks hertziens, donc moins hachée par la pub, ça peut donner quelque chose de pas mal du tout. Ma foi, on est là.
Ouais, je crois qu'on y est.
On est sérieusement à la bourre.
Ça monte là. Ça monte.
Ah oui, c'est vrai, c'est son problème.
C'est mon baptême du feu, c'est ça?
Ouais.
Ne chante pas, Xavier, ne chante pas.
Pour une fois, je suis en vacances.
It's time now.
La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Morgan.
5.1. Et oui, ma première chronique, alors on va voir.
Et quelle chronique? Pas par n'importe
t'as
quoi.
Pas intérêt à spoiler parce que du sport, l'a pas eu.
Ah, et est-ce que Sushi l'a vu?
Oui.
Bon,
vous savez déjà tous de quoi on va parler, c'est génial.
Ouais.
Je vais parler donc.
Oui, j'ai lu sur ta feuille.
Quoi, j'ai une feuille moi? Non, je fais tout de tête.
Plus que ce conducteur.
Allez, donc, vas-y. Nous allons parler du héros qui aime s'appeler un playboy milliardaire philanthrope dans une armure de métal. Je veux parler bien sûr d'Iron Man 3, le très attendu dernier opus de la trilogie Iron Man, initié par Jon Favreau en 2008, je crois. Oui, c'est ça, c'est marqué. Donc l'histoire se déroule après la grande bataille de New York contre les extraterrestres envahisseurs dans Avengers, où Iron Man renvoie dans l'espace un ogive nucléaire. Donc on retrouve Tony Stark, notre héros pris de certaines crises d'angoisse suite à cet épisode. Il se réfugie dans son antre à Miami, dans sa superbe villa, afin un peu d'oublier cet épisode, et travaille donc toujours sur ses armures pour les améliorer sans cesse. C'est un peu le prolongement de lui-même. Donc ces armures nommées Mark vont
Mark 0,
donc vont être améliorées exactement. Donc avec on a des nouveaux gadgets, plein de des armures qui se montent en kit, qui sont autonomes et sur batterie. Mais malheureusement, il y a toujours un méchant. Et là, le méchant, c'est le Mandarin. Donc le Mandarin qui sème la terreur un peu partout dans le monde et surtout aux États-Unis. Allons savoir pourquoi. Va venir un peu envahir le quotidien de Tony Stark et détruire son univers personnel, et il va s'attaquer à ses proches.
Il est un peu chauffé aussi.
C'est vrai, je suis d'accord. Mais alors Tony Stark, par contre, va partir en quête, dans une quête acharnée pour retrouver les coupables, parce qu'on touche pas à sa maison, ses armures et sa copine, donc là ça va chier. Mais il part avec une armure qui est un nouveau prototype et donc qui n'est pas vraiment fini. Et donc, n'étant pas opérationnel, il va devoir, et marchant sur batterie, il va devoir en fait s'en séparer pendant un certain temps et va être mis à nu. Donc on va avoir un Tony Stark la plupart du temps sans armure, qui est livré à lui-même avec son ingéniosité, sa...
Toute ressemblance avec un Batman 3.
Et ce n'était pas fait exprès. Et donc là, il va être confronté à une question existentielle. Est-ce que c'est l'homme qui fait le costume ou bien le costume qui fait l'homme? Et là, je remercie cette phrase de Allociné. Non, je le dis parce que je trouvais la phrase...
Bien trouvée.
Bien trouvée, et il faut le dire. Donc, alors là, le problème, c'est que on nous a dit dans les premiers épisodes que l'armure était autonome avec le fameux réacteur arc qu'il avait sur le cœur. Mais là, astuce ou je ne sais quoi, elle a besoin d'être rechargée. Donc c'est pour ça qu'il va s'en séparer et va tomber dans une ville lointaine dans les États-Unis sous la neige et va rencontrer Harley, un jeune enfant, comment dire, sans famille, on ne sait pas d'où il sort.
Un peu geek, un peu bricoleur.
Non, il a une famille, il le dit.
Il a une famille, mais on ne la voit pas. Son père qui est parti jouer au loto, enfin bref, j'en dis pas plus.
Oui, voilà.
La scène est assez drôle.
Et donc cet enfant voilà, va l'aider un peu à récupérer un document, un dossier confidentiel qui va lui permettre de retrouver la piste du mandarin et de rétablir au passage sa superbe armure. Donc je ne l'ai pas vu en 3D, il existe en 3D, mais alors d'après ce que j'ai lu, c'est la pire adaptation 3D de ces dernières années. C'est-à-dire que ils ont voulu trop en faire, chaque objet a son propre plan, c'est un scandale pour les yeux. Ne surtout pas aller le voir en 3D.
Ah, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est exagéré. Oui, j'ai pas eu le choix pour la VOST, mais en plus on sent bien qu'une partie des de la pellicule n'a pas du tout été faite en 3D. Et d'ailleurs au générique, t'as une grosse équipe d'Indiens spécialisés en gonflage
qui a détouré chaque objet.
Ouais, même le lapin.
Exact, le fameux lapin. Donc dans cet opus, on a un lien avec le premier épisode, sacré clin d'œil puisque le film s'ouvre sur une musique des années 90 et on se demande pourquoi, alors que d'habitude on
Allemande.
A l'habitude d'avoir du bon AC/DC. Et donc là, c'est la soirée du Nouvel An de 99 à Berne, où dans le premier épisode, le personnage qui l'accompagne dans la caverne et qui lui sauve la vie lui dit à un moment, on s'est déjà rencontré lors d'un congrès, mais vous ne vous en rappelez pas. Et là, en effet, on le retrouve, c'était lors de cette soirée en 99. Donc petit clin d'œil à ce premier épisode. Et là, en fait, pour la première fois dans le film, Tony Stark tombe face à son ennemi.
Oui, parce qu'il a... Non, désolé, j'ai merci, pas mieux.
On n'a pas le
droit de faire ça.
Parce qu'il faut savoir que dans le film, il a plusieurs ennemis.
Voilà, il a
le mandarin, et dont l'autre ennemi travaille pour le mandarin, qui est donc.
Alors, on va pas trop en dire, mais c'est Aldrich Killian.
Oui.
De Advanced ID Mechanic, donc AIM.
Non, sachant pour du sport que l'un des deux méchants, c'est Guy Pearce. Qu'il fait très très bien dans un registre d'ailleurs assez proche de Sam Rockwell du 2, mais il le fait beaucoup mieux. Sam Rockwell, je l'avais trouvé un peu fade. Là,
je l'ai vraiment apprécié.
Ouais, Guy Pearce en Playboy, pas mal. En plus, il a une garde-robe de costumes que je ne mettrai jamais, mais sur lui, ça lui va très bien.
Il les porte très bien.
Tout lui va.
C'est tout à fait métable.
Ah oui.
Et donc, notre cher méchant, à l'aide d'une scientifique, a mis au point une sorte de nouvelle science qui auto-régénératrice qui permet donc aux plantes à la base de se régénérer, mais malheureusement l'expérience va être testée sur des humains,
comme toute expérience
qui était inachevée bien sûr, va être testée sur des humains, mais cette expérience a des fâcheuses tendances explosives
à déraper.
Et donc il va y avoir certains cas comme ça d'attentats explosifs sans explication.
Je rappelle que AIM, le A n'est pas pour aperture.
Non, tout à fait. Et donc au début on va penser que c'est donc le mandarin qui est derrière tout ça, parce que voilà, il fait des interruptions.
C'est du méga spoiler là, si
non
pas
non
vu,
du tout parce que je cache
pas.
Le et donc le mandarin qui est censé être derrière tout ça
n'était qu'un pion.
Est un personnage bien étrange, mais je n'en dirai pas plus. En tout cas, il y a eu un par rapport à la BD, il y a un.
Alors moi personnellement, effectivement, sur la bande dessinée. C'est une conversation en fait qu'il a enregistrée.
que tu m'as envoyé.
Comment il s'appelait le ministre là qui a été viré.
Quand Xavier laisse des messages, en fait, il oublie de raccrocher.
Voilà, c'est la même chose que pour le ministre là, j'ai oublié. Exactement le même gag. Donc ce qui est intéressant effectivement, c'est que le mandarin c'est un personnage emblématique, c'est un vieux chinois qui a 10 anneaux de puissance, etc.
Normalement, qui est considéré comme le meilleur méchant de Speed 2. d'Iron Man.
Iron Man.
Voilà, exactement. Il était sous-entendu à ce qui paraît dans le premier film, et là, la manière dont ils l'ont réécrit vraiment, c'est-à-dire que c'est un intégriste
plutôt du Moyen-Orient,
et jusque dans les logos qui sont écrits et tout ça. Là, franchement, j'ai vraiment apprécié la manière dont il a été refait.
Et Ben Kingsley donne une dimension
énorme,
vraiment où il fout les jetons quand même.
Ah ouais. C'est on sursaute. J'ai entendu toute la salle sursauter au coup de fil. C'est étonnant. C'est génial.
On en dira pas plus, mais c'est vrai qu'on a du coup un méchant assez particulier. Alors pour moi, personnellement,
if you want a good movie, take a good evil. Là, il le fait à fond.
Comme Thomas le disait, il y a deux méchants. Et le méchant principal, on va dire,
n'est pas celui qu'on croit.
Tout à fait. Et je commence à critiquer, mais pour moi, on dit qu'un bon méchant doit être à la hauteur du héros. Et je trouve qu'il ne l'est pas du tout. Donc on reste un petit peu de ce côté-là sur sa fin.
Alors déjà le concept des Iron Man, c'est que la franchise est basée sur Tony Stark.
Oui.
Et si tu regardes bien, malgré le fait qu'il y ait Jeff Bridges dans le 1, il est complètement à chier parce qu'il est caricatural.
Ouais.
Dans le 2, même si c'est Mickey Rourke qui a un bon look, c'est quand même à chier parce
Quelqu'un peut me dire quand Jeff Bridges n'a pas été caricatural?
il y a eu plein de rôles où il a été bien sans en faire des tonnes.
Lebowski.
Mais par contre, dans Arlington Road, il est très bien.
Non, il est bien.
Ouais. Dans le 2, Whiplash, c'est une horreur. Et dans le 3, ben normalement, quand tu te frottes à Tony Stark, t'es obligé d'être. Tu peux pas faire ce que tu veux, quoi.
En tout cas, on est dans un épisode où il y a beaucoup moins d'armure que dans les deux précédents. On a vraiment Tony Stark mis à nu, je trouve. Donc plus d'introspection personnelle.
Oui, il y a
un effeuillage pour vous, mesdemoiselles.
Et heureusement que Robert Downey Jr. est un excellent acteur parce que quand même il tient tout le poids du film et encore plus dans celui-ci. Et
il est juste génial. Rien que la scène d'ouverture en 99.
C'est vrai.
Dans deux minutes, sur le toit. Oh, énorme.
Mais cet épisode est moins marquant que le premier parce que le premier, c'était la première fois qu'on voyait vraiment un héros qui était vraiment presque détestable parce que c'était quelqu'un qui était misanthrope et tout. Il vend des armes. Alors que là, c'est vraiment. Il accepte de se tourner en ridicule aussi.
Ouais.
Et alors après, on va y revenir. Après, j'imagine que t'as préparé un petit truc sur le réalisateur.
Tout
mais
à fait.
C'est vrai que là, on voit que l'esprit de la série change.
Et oui, puisque il a ses craintes, ses peurs, et il tombe un peu lui-même de son piédestal sur lequel il s'était mis tout seul. Donc son père avait fait en sorte qu'il s'y mette. Enfin, je ne sais pas. Et donc voilà ce que je peux dire de cet épisode plus psychologique et personnel. Alors le réalisateur, oui, évidemment, ce n'est plus Jon Favreau. Qui est au passage l'acteur qui joue le chef de la sécurité.
Oui, avant il était conducteur et garde du corps,
maintenant il est chef de la sécurité.
Dans un rôle comique très drôle.
Excellent.
Non, parce que bon, Jon Favreau s'était réservé des apparitions comiques dans les films, mais là c'est vraiment tout le début, tu es mort de rire.
Tu peux pas imaginer ce à quoi il est accro à la télé. On peut le dire quand même. Oui, on peut le dire.
Badge. Vous n'avez pas votre badge.
Il est accro à Downton Abbey. Très bon goût.
Et donc le réalisateur et scénariste, c'est Shane Blake, donc de Kiss Kiss Bang Bang ou L'Arme Fatale, qu'on entend. Donc film d'action années 80-90. Comme tu le disais, on retrouve sa patte.
Hey, voleur.
Hey, t'as vu ça? C'est peut-être pour ça que le ton change. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ça.
Ouais, alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Shane Black, même si c'est son premier film en tant que réalisateur, deuxième film après Kiss Bang Bang, mais il a surtout été connu en étant scénariste de tous les buddy movies des années 80-90, Les Armes Fatales, Le Dernier Samaritain, Au Revoir à Jamais, toute cette vague de films un peu bang bang avec beaucoup de comiques, avec des duos d'acteurs, le blanc, le black, le vieux, le jeune, etc. Et c'est vrai que là, Shane Black, bon, il a aussi connu un peu le même parcours que Robert Downey Jr., c'est-à-dire qu'il est quand même un penchant pour l'autodestruction et quelqu'un qui aurait dû avoir une carrière qu'il a pas eu. Et là, c'est vrai qu'on retrouve cet esprit-là de buddy movie, où si tu fais attention dans tout le film, en fait, il n'est de toute façon que question de rapport d'équipe, en fait, puisqu'ils forment un duo. Parce que là, Tony Stark, comme tu disais tout à l'heure, on voit beaucoup plus, paradoxalement, de Tony Stark que d'Iron Man. Et on le voit aussi en faisant équipe avec Don Cheadle. Et Don Cheadle, il est lui aussi plus à la ville que le gars qui est derrière War Machine. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu fais des captures d'images, tu te crois dans l'arme fatale, quoi. Alors, le même type de comique, par exemple, quand ils doivent faire un gunfight, il y a les mêmes blagues qui reviennent par rapport à Murdoch ou Martin Riggs.
Il se met à couvert et qui sort. Alors, t'as vu quoi? J'ai pas fait assez.
Voilà, pour compter les mecs, il a le buddy movie avec Pepper Potts, le buddy movie avec le gamin.
C'est vrai, avec le gamin.
Donc, ouais, c'est toutes ces questions de ça, en fait. Donc, c'est vraiment la patte, vraiment, film d'action un peu léger, les années 80-90.
Finalement, l'armure, on la voit aussi autonome, on la voit sans Tony Stark. C'est aussi un duo, finalement. Puisque
exactement.
L'armure vient à sa rescousse de plusieurs reprises. Et oui, tu as raison, il y a des duos partout tout le temps.
Alors, il y a quelques même autres références dans le film, puisque ça va parler plus sur toi du sport, puisqu'il est question à un moment donné de changement de nom, puisque James Rhodes donc endosse l'armure de War Machine, qui est dans le film rebaptisé Iron Patriot. Iron Patriot, qui est dans la mythologie du comics.
Le fils d'Avengers, de Captain America et de Iron Man.
Iron Patriot, c'est le nom que prend Osborn dans le Hammer, puisque il a repris les rênes des Avengers, il a remplacé Tony Stark à la tête des Avengers, et c'est devenu le Hammer, et lui donc il endosse l'armure repeinte d'Iron Man pour en faire l'Iron Patriot. Et si tu... on va pas trop spoiler, mais dans le film Iron Patriot, à un moment donné, a un double usage.
Oui.
Et c'est donc une référence à la BD qui doit incarner justement...
Oui, parce que c'est pas lui qui va servir de l'Iron Patriot en plus.
Oui.
C'est pas normal, quoi.
C'est pas normal ?
Non.
D'accord.
Mais surtout, c'est très très drôle, c'est toute la dualité à propos de ce renommage. Je préfère ce nom, etc. Et en fait, ils ont vraiment...
Beaucoup d'humour avec les mots de passe, ce genre de choses.
Et autre référence, parce que j'attendais que tu en parles aussi. J'ai apporté une BD dont on avait déjà parlé dans cette émission, et ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé.
Vas-y.
Donc voilà, on s'excuse pour les éloignements du micro, un petit peu violent.
C'est tiré en partie de cette BD là, mais ça a été réadapté quand même.
Voilà, donc beaucoup. Iron Man Extremis. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que c'est un one shot dérivé, donc c'est pas ça s'écrit pas dans la mythologie Iron Man principale.
C'est pas dans la continuité, on va dire.
Exactement. Donc c'est un one shot, c'est scénarisé par Warren Ellis et dessiné par Adi Granoff. Iron Man Extremis, où on retrouve cette histoire de virus autonome avec les gens qui explosent, etc. Pour l'anecdote, c'est cette BD qui a inspiré le nouveau look d'Iron Man dans le premier film de Jon Favreau. Il est question également du virus extrémiste, donc la boucle est bouclée, puisque c'est cette BD qui a inspiré le look du 1, et le 3 s'inspire du scénario de celle-là.
Mais alors, est-ce qu'on en aura un quatrième ? Alors,
on retrouve la scientifique Maya Hansen dedans, et ainsi que Kylian également.
On vous invite à écouter l'interview qu'on a diffusée, donc c'était le 8 mai 2008. Donc Daddy Granoff qui là-dessus, et après quant à savoir, normalement c'est la fin d'un cycle, mais à la fin il y a marqué Tony Stark reviendra.
Exactement.
Donc est-ce que ce sera vraiment Iron Man
façon James Bond un peu?
Eh bien, façon surtout les fins des films pré-Avengers, oui, puisque Thor reviendra dans Avengers.
Donc normalement Avengers c'est prévu pour 2014, donc l'année prochaine, le 2, donc on devrait y revoir Iron Man. Est-ce que ça veut dire qu'on va le revoir dans Avengers 2, ou est-ce qu'il y aura peut-être un Iron Man 4? Nous n'en savons rien pour l'instant.
Dans la scène finale, il y a une partie d'indice quand même.
Un petit peu, en tout cas on sait que oui, il y aura une histoire, mais est-ce que c'est Avengers, on ne sait pas. Il y a toujours il y a une petite scène après le générique qui dure très longtemps d'ailleurs, on n'en dira
un peu
pas
dégoûté,
plus.
Ouais.
qui boucle avec le début d'ailleurs du film. Où on comprend ce monologue.
Ensuite, une question qu'on avait posée la semaine dernière dans le crescendo des qualités des films, des trois films de cette franchise-là, où tu placerais-tu ce Iron Man 3 par rapport aux deux premiers ?
Alors, le premier reste en tête des trois. Mais bizarrement, peut-être parce que j'ai trop vu le 2, je mettrai le 3 entre les deux. Donc à la place du 2 et le deuxième en dernier.
D'accord.
Voilà. C'est mon...
Je pense que je mettrai ça aussi, même si le côté un peu explosif à tout va, et on perd un peu l'esprit du 1 dans le 3, m'a un peu profondément embêté.
Donc dans le 3 il y a plus de sarcasme,
Et puis bon, c'est vrai que si tu aimes bien les buddy movies et que tu es vraiment dans cette optique là, ça fait plaisir de revoir cette patte là
Personnellement moi c'est la fin qui m'horripile too much.
Mais
avec
je n'expliquerai pas
pourquoi, ce serait trop en dire. Mais
le générique de fin, juste le travail d'infographie de filtre, ça c'est vraiment pas mal parce qu'ils reprennent les images des deux premiers aussi.
Ouais.
Et dans un optique vraiment presque série télé, débridée, on y va, c'est la
pas,
joie.
C'est pas les séries télé, c'est pas les séries télé. Moi j'ai surtout eu l'impression, c'est tu feuillettes un comics en diagonale avec les bords noirs comme ça.
Ouais, bon, moi ça m'a pas fait trop penser à la BD parce que la typo c'est pas une typo BD. Moi ça m'a vraiment fait penser vraiment série ou film, mais vraiment les films de Mel Gibson quoi. C'est vraiment le gars qui fait balance 2-3 phrases cool, je fais équipe avec un mec et puis voilà, et puis ça explose et puis tout le monde est content et je pars avec la fille. Voilà, c'est exactement ça. Bon, voilà.
Mais c'est vrai ce que disait Xavier à la fin, c'est un peu too much. Il y a la façon dont ça se termine, sens arriver tellement.
Ouais, il me semblait
mais par contre, pour moi, c'est vraiment le film en miroir avec le dernier Batman. C'est la même chose, la longue période où il a pas son costume, où finalement il est sur un terrain, pas d'ailleurs sur le terrain lui-même des opérations, et effectivement ce final what the fuck.
Et d'ailleurs du sport, si tu observes bien, Xavier, pour lui il y a beaucoup de films qui ressemblent au dernier Batman. Lui il avait fait ça pour Skyfall aussi.
Ouais, peut-être.
Ouais. Mais c'est le côté un petit peu démonté du héros et tout ça, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une mode d'écriture.
Skyfall et les Batman des trilogies, faut rechercher les hein.
Ah, et pour la partie dans le manoir à la fin.
Ouais.
Non, mais je trouve qu'il y a une mode d'écriture et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière cyclique dans ce genre de blockbuster.
C'est vrai que pour te soutenir, il y a quand même une sorte de descente aux enfers en tant qu'homme. Pour retrouver vraiment sa stature du début qui est comparable, oui, par rapport à The Dark Knight. Par contre, t'as une espèce de chaos généralisé dans The Dark Knight qui est autrement traité par rapport à Iron Man, qui même s'il y a des attentats.
Il est jamais dans le chaos, je suis désolé. Iron Man, il est jamais perturbé.
Non, il n'y a pas de chaos. On suit sa maison qui a explosé au début, mais.
Mais il s'en fout, est là,
il a perdu sa maison et son lapin quand même.
En extérieur, il est comme ça, mais s'il a ses troubles et ses petites crises d'angoisse, c'est parce que justement, au fond de lui, il est troublé.
Mais moi, ce qui m'a dérangé dans Iron Man, c'est que je l'ai jamais cru en danger. Tu vois, toute l'histoire du méchant, pour moi, c'est. Lui, ça ne l'atteint pas, en fait.
Oui, mais c'est parce que la.
C'est ça que je lui reproche.
C'est parce que le ton n'est pas sombre. C'est le ton est à la déconnade, donc.
Mais ouais, mais ça va pas du tout avec l'aspect, le mec, c'est un terroriste et compagnie, tu vois. Moi, j'ai pas eu peur, mais. Enfin, t'as dit, la salle a sursauté, mais moi. Que dalle, quoi.
Là, je suis plutôt du l'avis de Sushi aussi, moi.
Franchement.
Mais je pense que c'est pas le but.
C'est pas le but, ouais.
Non, c'est pas le but, mais dans ce cas-là, pourquoi tu le fais névroser et. Et angoissé, si derrière.
Sauf que quand tu le fais névrosé, t'as vu que la scène où il apprend qu'il est névrosé, en fait, c'est un potentiel comique. En fait, c'est tourné pour te faire rire. Alors que Bruce Wayne, quand il voit qu'il est complètement là, tu rigoles pas. Alors que là, c'est Jarvis qui dit monsieur, vous faites une crise d'angoisse. Un gros blanc. Hein.
Voilà. Il est pas habitué. Voilà.
13h31 dans le Super Weekend, vous venez d'entendre la douce et guivrette voix de Sushi qui est là pour parler de sport et qui, ma foi, malheureusement, il est quand même question de série télé avant.
Pourquoi malheureusement?
Pourquoi, oui, voilà.
Tiens, t'es malheureusement. Malheureusement, du sport, c'est pour ça que...
Parce qu'il fallait la passer. D'acier, Robert d'acier, l'homme de fer. Après, Thomas vient de la comprendre. Je crois qu'il est encore plus dépité qu'après sa blague qu'il a fait à l'interview.
Adrien,
bonjour.
Du sport.
Voilà.
Que nous réserves-tu en joyeuseté et en programme ciblé aujourd'hui?
Tout et n'importe quoi, avec quand même quelques petits chefs-d'œuvre, hein. Et une partie ARS. Alors ça commence ce soir avec un excellent documentaire sur Freddie Mercury sur Arte à partir de 22h35, documentaire qui date de 2012, l'année dernière, donc inédit à la télé, ou alors si vous préférez sur RTL9, vous retapez pour la énième fois. Ah, il y a des gens qui l'ont peut-être pas vu, Candyman, le vrai, l'original, avec Tony Todd, de Bernard Rose, Virginia Madsen et Xander Berkeley, bien sûr. Sinon, sur Ciné Plus Club, à 20h45 ce soir, Deep End de Jerzy Skolimowski, le Polak qui a été éclipsé par un certain Roman Polanski, au titre de meilleur cinéaste polonais du monde. Donc c'est un peu dommage parce que c'est pas mal. Surtout sur Deep End, ça c'était sa période anglaise. Hein, il a le même cursus que Polanski à la même époque, hein, début des années 60 en Pologne, puis il émigre
du côté de l'Ouest, la France puis l'Angleterre. Là, c'est un film anglais avec John Mulder Brown et Jane Asher. Ou, si vous préférez plus la déconnade, sur OCS Nouveau ce soir à 20h40, l'excellent film d'action de John Badham qui s'appelle Saturday Night Fever.
C'est de l'action, c'est bien.
C'est de l'action, il n'y a pas de problème. ou alors le chef-d'œuvre du cinéma français, enfin l'un des chefs-d'œuvre du cinéma français sur OCS géant ce soir à 20h40, L'Assassin habite au 21 de Clouseau en 42 avec Suzy Delair. Pierre Freinet et Jean Tissier. Pour une fois, je vous dirai pas qui est l'assassin.
Pour une fois.
Demain, ouais. Demain, vous parliez de l'excellent acteur qui est Robert Downey, qui a vu sa carrière décoller avec le film Chaplin, qui passe demain soir sur HD à 20h50, le film de Richard Attenborough qui raconte l'histoire de la vie de
Charlie,
avec donc Robert Downey à l'époque, et qui a vraiment crevé l'écran. Je crois même qu'il a même fait péter un Oscar, il me semble, tellement c'était convaincant. Enfin bon, c'était vraiment étonnant, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Il y a Moira Kelly qui joue également dedans, et bien sûr Géraldine Chaplin, qui elle, c'est là quand même la fifi à papa. Ça c'est demain soir sur HD1, sinon sur Ciné Plus Famise, 20h45, Kangourou Jack de David McNally, avec Jerry O'Connell, Anthony Anderson et Christopher Walken, des Américains au pays des kangourous, ça peut être rigolo. C'est d'ailleurs fait pour ça.
Pour en revenir, c'est trois Oscars, hein. Meilleur acteur, meilleur décor et meilleure musique. John Barry d'ailleurs à la musique.
Magnifique. Encore un ex de Anne Birkin. Bon, ok.
LSM.
Sur TCM, un excellent western, 3h10 pour Yuma, l'original de Daniel Davis, avec l'excellent Glenn Ford et Van Heflin. Sinon sur FX, il y a l'excellent film Dixit Thomas de vampire, c'est le vampire de John Carpenter.
Mais très bien.
Ça c'est non, mais c'est très bien. Hein, pour moi c'est plus un western qu'un film de vampire.
Ah ben oui. Non, voilà, je t'avais sorti ça pour parce que c'est le premier qui me venait à l'état.
Voilà. Lundi sur Canal Plus Cinéma, une curiosité mexicaine, Dias de Gracias. De Everardo Valerio Gutz, qui date de l'année 2011, avec Dolores Heredia, Carlos Bardem, un film qui raconte l'histoire de trois personnages à trois périodes différentes qui sont chacune situées pendant une Coupe du Monde.
Ah bah tiens.
Ah ouais, pas mal.
Je crois qu'il a eu même une excellente critique à l'époque.
Ouais,
hein.
ouais. Moi j'ai vu quelques extraits, je me suis dit, ça a l'air vraiment pas mal ce truc. Sinon sur Polar, lundi toujours à 21h, Un flic à Chicago de John Irvine, avec Bill Paxton, Patrick Swayze, Liam Neeson, des pecnous qui sont pas contents parce qu'il y a un mec de la ville qui est venu qui a dégommé l'un des leurs, donc ils vont à la ville pour se venger. C'est tout. Sur Action, lundi, toujours à 20h40, Kickboxer 4, c'est celui avec Sacha Mitchell, de Albert Pyun, ou alors sur OCS Géant, un film géant de René Clair, La Beauté du Diable, donc avec Gérard Philippe, le mythe de Faust, Michel Simon et Simone Valère. Mardi, sur D8, Il l'a osé, il l'a fait, dans la foulée, il avait fait le 1, il avait fait le 2, il a fait le 3, c'est David Worth. Et c'est Shark Attack 3 avec John Barrowman et Jenny McShane. Sinon, mardi toujours sur Comédie à 20h40, un film qui est inspiré d'une bande dessinée avec dedans Jean Rochefort, Coluche, Roland Dubillard. Bande dessinée, ce qu'il a inspiré, c'est une bande dessinée de Gottlieb, et c'était le premier film de ce mec qui auparavant travaillait dans Pilote. D'ailleurs, bon, ces BD étaient parmi celles que j'aimais le moins. C'est Patrice Lecomte. Les WC étaient fermés de l'intérieur.
Ah, mince.
Avec Coluche, donc, Jean Rochefort et tout. Bon, film regardable, mais enfin bon, vraiment pour regarder, quoi. Parce que bon, ça a vieilli, et puis bon, l'adaptation était pas top. Sur Ciné Plus Classique, à 22h55, toujours mardi prochain, au paradis à coups de revolver, un petit western qui est vraiment sympathique à regarder, avec Glenn Ford encore, qui là, il a un excellent rôle. Parce qu'il arrive et tout, on sait que c'est un tueur à gage, et puis il arrive et puis il va essayer de faire le bien entre les éleveurs de vaches et les éleveurs de moutons, quoi, tu vois, qui se fightent pour les terrains. Donc c'est pas mal parce que bon, Glenn Ford il joue très très bien. Il y a Caroline Jones, il y a Barbara Hershey, jeune, alors en jeune sauvageonne indienne, excellent. Et à l'époque, elle était avec David Carradine. Donc, David Carradine, c'est un des hommes de main des méchants et tout. Excellent. Et puis, il est jeune à l'époque, puisque ça date de 69. Sinon, sur FX, mardi, alors ça, je sais que toi, tu seras devant ton poste, parce qu'il s'agit d'un film de science-fiction turc de Ömer Faruk Sorak qui s'appelle Gora.
Ah oui, il est très très drôle.
Avec Didil Firat et Cem Ulmaz.
Non, c'est un film récent parodique.
Alors c'est une parodie.
C'est juste à pleurer de rire.
C'est un type qui essaye de vendre un endroit comme étant un endroit où t'as des ovnis qui apparaissent quand il y a vraiment des extraterrestres.
Alors la scène d'introduction est juste géniale. C'est dans un navire de guerre. Tu as des officiants qui parlent entre eux, etc. Le film est phénomène rare sur CinéFX, c'est en VO et il parle en anglais et tout ça, et au bout d'un moment tu as le maître de guerre, tu vois, manière stratégaire et tout, et t'as l'autre qui dit ils sont vraiment obligés de parler en anglais, non mais on va les envahir, tu vois, ils disent en turc et t'exploses de rire. Déjà rien que là le ton est donné, c'est vraiment un petit bijou d'humour assez poilant. Amener ketchup, harissa, tout ça.
Ouais.
Sur les pop-corns, hein. Vous allez vous éclater.
C'est mardi prochain, donc, sur la chaîne FX à 21h, Gora. Mercredi, c'est jour de bouse, on va dire, généralement, mais il y a quand même des bons trucs. Sur RTL9, une soirée cimetière avec le 1 d'abord de Marie Lambert avec Del Mikif et Denis Crosby, et ensuite le 2, que Marie Lambert a également réalisé 3 ans plus tard, avec Edouard Furlong, Anthony Edwards, 92, donc c'était juste un an avant hier, hein.
Avant
l'urgence, ouais. Eh ouais, Clancy Brown,
Kurgan aussi, tiens.
Ouais. Et c'est tout. Voilà.
Okay.
Sur D17, mercredi, toujours à 20h50, Ultime Vengeance de Michael Oblowitch, Steven Seagal, Corey Johnson et tout, quoi. Alors, depuis que
j'ai ce bouquin. On croit tous que c'est son ultime film.
Depuis que j'ai ce bouquin, ça me mâche le boulot, parce qu'en fait, le titre original, c'est Out for a Kill. Et en fait, c'est le premier de ces films DTV qui fait où ils prennent des morceaux d'anciens films et les mettent ensemble. Puisque Out for a Kill, quoi, tu pourrais faire Out of Justice, quoi, qui était le meilleur film avec Jerry Orbach et toute la bande. Et aussi Hard to Kill, le film de Bruce Malmuth dans lequel il est barbu au départ et tout, il est dans le coma et puis ensuite il revient, il va se venger parce qu'ils ont tué sa femme. Donc bon, c'est
si t'as parlé du bouquin, tu pourrais le mentionner peut-être.
Oui, mais attends, parce qu'il y en a d'autres.
Ah d'accord, okay.
Alors ça c'est sur D17 mercredi prochain à 20h50. Sinon, Ciné Plus Frisson vous propose à 20h45 Protégé, un film de Derek Yee avec Andy Lau, Daniel Wu, Louis Co et Anita Yu.
Bah ouais, très bien.
D'accord. Ou sur OCS Novo. Et là, ça vaut le coup pour les gens qui aiment la musique. C'est The Last Waltz de Martin Scorsese en 78. Et ça c'est le dernier concert du groupe The Band. Donc, le groupe qui a accompagné Bob Dylan pendant très très longtemps, plus d'une décennie pratiquement. Et c'était leur dernier concert ensemble filmé. Bon, après, ils sont un petit peu reformés, c'est pas grave. Officiellement, c'était ça. Et donc, ça a été filmé par Scorsese et tout. Il y a plein d'invités. Il y a Dylan qui vient. Enfin, plein de gens. Et ça s'était passé en novembre 76 à San Francisco.
Il aime bien filmer les concerts, Scorsese.
Ok.
Tu m'étonnes, il a accès au backstage. Et puis, t'es avec une caméra, t'as les filles qui viennent vers toi.
C'était un fan, c'était un des gamins qui allait dans les concerts des Stones dans les années 60.
Ouais.
Donc, il a la possibilité avec son métier de réaliser son fantasme, ouais, approcher ses idoles de sa jeunesse et en même temps faire son métier avec eux, quoi. Alors donc c'est le pied ultime, quoi.
De toute façon, dans ses films en guise de BO, c'est tout
oui,
le temps
bah,
des
c'est,
bandeaux,
clair, c'est clair, hein, c'est clair.
Rock,
quoi. Ouais, lui, y a pas de. Alors jeudi sur D17, vous voulez du Christian Slater, vous allez en avoir avec une soirée Christian Slater sur D17 jeudi prochain à 20h50. Braquage infernal de Daniel Antonijevic en 2002 avec Christian Slater. Val Kilmer, Balthazar Getty. Ah ouais,
pas mal.
Un casting intéressant. Et Sarah Downing, parce qu'il faut bien des gonzesses. 22h30.
Oh
bah quoi, il a pas dit d'horreur.
Sushi, t'as le droit de taper.
22h30. Non, mais c'est bon, ça fait partie du cahier des charges imposé dans les films de ce genre.
Pas de remarque.
C'est tout. 22h30, toujours sur D17 jeudi prochain. Double illusion de Tibor Takács. Ah, Tibor Takács, on le connaît un peu mieux quand même. Avec Christian Slater et Cuba Gooding Jr. Et comme ça a tellement bien marché ensemble, ils ont décidé d'en faire d'autres. Alors, sur 13ème rue, justement. Sacrifice de Damien Lee. Damien Lee qui avait déjà fait un film avec Michael Dudikoff aussi, quoi, en 97, si je me souviens bien. Et là, bah, dans Sacrifice, on retrouve Christian Slater et Cuba Gooding Jr. Ainsi que Kim Coates pour faire la gueule du mec qui est méchant et qui va être le traître, quoi, généralement, parce que vu la gueule qu'il a, tout, c'est facile pour lui. Je dis toujours.
Oh, le délit de sale gueule.
Non, mais quand tu vois la gueule à Kim Coates, tu dis, ok, le mec, il va pas jouer les jeunes premiers. Point. Tu vois? Mais c'est tout, quoi. Bon, FX vous propose également un excellent film de bagnole, Enfer mécanique d'Eliot Silverstein, avec James Brolin et Kathleen Lloyd, une espèce de monstre mécanique, je sais pas qui c'est qui est à l'intérieur et tout, puis il va commencer à tout péter dans une petite ville de province aux États-Unis. Excellent, quoi. Pas mal, assez sympathique. On termine avec vendredi soir, vendredi prochain sur Ciné Plus Club. Le grand classique, Les Hommes du Président d'Angie Pacula, avec Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden, Martin Balsam, Georgette et des meilleurs et tout, et les répliques qui tuent, quoi. Y a rien à dire, quoi, de toute façon, quoi.
Tu veux pas nous en sortir une?
Non, mais c'est pas mon domaine de réplique, quoi. moi, c'est plutôt du hard-boiled, on va dire.
J'aime bien Peter et Steven, ils sont bien, ils sont des professionnels.
Merci.
Non, ça c'est pas dans le film.
On termine vendredi toujours.
J'ai rien compris.
Si tu as pas vu.
Comme d'habitude.
Non, mais si tu n'as pas vu surtout le grand détournement, tu peux pas comprendre.
Ouais, mais c'est ça.
Et
mais bon.
L'homme bien sapé.
Voilà.
Mais bon. Non, là il s'appelle pas
Abitbol. Poursuivons.
Il s'appelle pas Abitbol. De toute façon, Abitbol, on sait pas qui c'est, quoi.
13h44 dans le Super Weekend, on parle d'un film que vous n'avez sûrement pas vu d'une manière légale.
Ah si.
Toi t'étais abonné Canal en 92.
Ah non, c'est passé en clair.
Sur une chaîne qui s'appelait Festival avant qu'il devienne France 4.
Non, sur Canal,
en 2002.
Non, sur Canal, c'est passé en clair.
Ils l'ont repassé.
Ah ouais.
Bon.
Va pas nous énerver, hein.
Mais il y a très longtemps, hein.
D'accord, ok.
Il y a très 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 longtemps, hein. Bon ouais, ok. C'est pour ça que moi. En VHS.
Il a encore la VHS chez lui.
Ok. Vendredi.
Je vois bien que c'est légal.
Sur FX. Sur FX, un petit film de vampire, La crypte du vampire, de Claudio Mastrocinque. C'est un italien, c'est une coprode italo-espagnole, avec Christopher Lee et Anna Ambresi. Ou alors sur la chaîne Action, Le fleuve de la dernière chance, avec Dana Andrews et Piper Laurie, un film de Jack Hopper, et c'est un western. Sur OCS Choc, à 20h40, Justice sauvage, Out for Justice, qui est de l'avis du mec qui a fait le bouquin Seagalogy, le meilleur Seagal de toute façon, avec celui avec Jerry Orbach et tout ça. Et bon, c'est le film de John Flynn en 91.
C'est le film qui se passe pendant toute une nuit, en fait, où il fait la tournée.
Voilà, globalement. Ouais. Globalement, quoi. Où il est plus ou moins demi-frère avec William Forsythe, puisqu'ils ont grandi ensemble et tout ça, quoi. Et c'est le film, d'ailleurs, où tous les autres films avant qu'il a fait avant, les trois autres qu'il a fait avant, si tu veux, le méchant et tout, il a toujours un plan, un truc diabolique et tout, qui va tenir la durée du film, quoi, pour que. Suivre le cheminement du mec qui va le choper, quoi. Alors que là, William Forsythe, il est psycho de chez psycho, c'est-à-dire lui rien à foutre, il a pas de plan, il dégomme des mecs au début, ensuite ou d'un moment il est obligé de se défendre, ah putain, il y a une nana qui traînait là, bon dommage collatéral, mais il a pas de plan dans le trip, quoi, tu vois, c'est-à-dire que lui il y va et puis bon, quand il crèvera point à la ligne, quoi, c'est tout, quoi. C'est assez rigolo. Et il y a également
c'est assez rigolo, un mort derrière,
et il y a également
on
dans
pas
ce
la même définition de l'humour là,
des apparitions, je dis bien des apparitions, là faut vraiment en trouver, parce que bon, il y a un petit peu la bande de Steven Seagal qui était quand même un type qui auparavant avait travaillé un petit peu dans le cinéma et tout, quoi. C'est lui qui avait cassé le poignet de Sean Connery sur le tournage de Jamais plus jamais parce qu'il faisait les entraîneurs d'arts martiaux et tout ça, quoi. Et donc son petit monde et tout, il l'a un petit peu ramené sur les tournages, et donc on a Raymond Cruz qui était un de ses potes du tout début, quoi. Raymond Cruz, qu'on voit, c'est le vieux flic avec les cheveux blancs dans la série sur la 2 qui s'appelle avec la femme à Kevin Bacon, là, qui passe sur le lundi, tous les lundis en ce moment, quoi, sur la 2.
The Confidential.
The Closer.
The Closer.
Voilà, The Closer. Donc Et si vous voyez le flic avec les cheveux blancs là, le plus vieux quoi, Raymond Cruz, bah c'est lui. Il y a également Johnny.
Ah mais c'est lui qui a, c'est, et oui, c'est vrai qu'il a la même gueule que Steven Seagal, c'est lui qui le doublait pour les sourires.
Mais non, il y a également dans Justice Sauvage John Leguizamo dans un petit rôle, Gina Gershon,
un blâme. Oui.
Juliana Margulies
c'est
également.
N'importe quoi cette émission.
J'arrête de compter les points là.
Et Roberto Lazzardo. Alors mais il faut bien les choper hein, quand même quoi. Voilà quoi. Donc alors ça passe sur OC Choc. Pardon. Vendredi prochain, et on termine avec un chef-d'œuvre quand même sur OCS Géant. Vendredi prochain, s'il y avait un film, le premier que vous devriez conseiller à quelqu'un qui n'a jamais vu de Hitchcock, pour le faire rentrer dans l'univers d'Hitchcock, je vous conseille celui-là parce qu'il est carrément grandiose, magnifique, et c'est à mon avis un mélange entre la première période hitchcockienne, c'est-à-dire anglaise puis américaine, où il refait les films anglais et tout ça quoi, et ensuite vraiment la période la plus féconde, c'est-à-dire celle qui est venue dans les années 50, hein. C'est l'inconnu du Nord Express, c'est le début des années 50-51, avec Farland Granger, Robert Walker, l'histoire des mecs qui vont échanger leurs trucs et tout quoi. Ça c'est carrément hyper bien foutu, c'est magnifique. Un tout petit défaut, c'est le rôle très secondaire des nanas dans ce film. Enfin bon, vous connaissez Hitchcock, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même Ruth Roman qui était dans le film. Il fallait quand même une nana. J'en dirais pas plus.
Vous verrez, mais alors, mais on en est un chacun retourné dans les blagues déconfisantes quand même à l'antenne.
Ah, c'est pas fait.
Mais alors là, vous verrez franchement l'air impassible de Sushi du style. Ça va se payer pendant les 5 minutes qui restent pour l'émission.
Non, mais c'est parce que autant que je me souvienne, les films de Hitchcock au début et tout, les femmes ont la portion congrue, on va dire, même si des fois elles sont parties de la quête du héros ou du héros malgré lui, alors que dans les années 50 c'est la femme qui a le rôle prépondérant dans les films de Hitchcock quoi. C'est elle qui est le truc principal quoi.
Entre temps il s'est marié et c'était sa femme qui s'occupait de ses scripts, voilà.
Et j'ai toujours pas vu ce film quoi.
Attends, tu nous dis c'est un film super important d'Hitchcock et tu l'as pas vu ?
Non, le film Hitchcock là, le
ah oui,
biopic,
le nouveau
là.
Ah ouais.
Ah non, celui-là j'ai dû le voir 2-3 fois au moins. Ah ouais. Pour bien capter tous les petits trucs, tu sais, c'est. Voilà.
Je peux lancer
comment flinguer un jingle ?
Attends, tu l'as tué.
Ouais, merci. Merci bien. Hein. Bon, on
va plus à Hitchcock, ouais.
Thomas, non, un petit peu de sérieux. Tu peux me faire le résumé, s'il te plaît ?
Oui, aujourd'hui, nous avions du jeu, des pirates, un espagnol avec des pubs cachées, un court-métrage promo qui tabasse, des dragons, un rasta, un tueur allemand du banjo, un homme de fer, Morgan rebaptisé, des aliens turcs, de la bouse, des gonzesses, une gueule de traître, une cassette VHS en clair, un méchant qui a pas de plan, c'est rigolo, une doublure sourire et des seconds rôles à choper.
Nom d'apéro qui est ivre, vous avez manqué tout ça ? Non, mais je savais pas.
Mais on a assisté à tout ça, nous ?
Oui, oui.
Ah,
ouais. Non, tu peux réécouter en entier cette émission. Pas de soucis. Je pense que Thomas ne nous a pas raté. Mais non seulement on peut réécouter cette émission en entier, mais aussi les précédentes. Et pourquoi pas dire, non, franchement, je suis pas d'accord avec Thomas sur son résumé. Là, c'était plus ça que ça. Vous écrire au courrier des audilecteurs et tout ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet de l'émission, supplémentweekend.fr. Sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr. Ou sinon, vous allez sur le site de la radio, radio-fmr.net, et vous cherchez Supplément Week-end, ce que vous ne trouverez pas forcément.
Le Supplément Week-end, l'émission qui commence dans les messages de répondeurs.
Ouais, à peu près. Faudrait que tu la mettes quand même, hein.
Oui, j'ai compris.
Il vient de comprendre. Voilà.
Oh, on a réussi une superbe Cahuzac.
C'est vrai, Cahuzac, c'était
lui. Parce que oui, t'as vu, il a retrouvé le nom du ministre.
Il s'est recherché sur Internet, pas mal. Hein.
Okay.
De tête, impressionnant. Mais je vous ferai parvenir cette bande son, cet enregistrement téléphonique.
C'est intriguant. Mon Dieu.
Je crois que Sushi est complètement dépité.
À peu près. C'était un making-of, hein, après tout, c'est tout. Non, mais tu sais qu'on a fait quand même pire sur cette antenne, donc faut pas s'étonner. Hein, ça.
On se dit comment je vais faire.
Heureusement,
niveau,
vous nous écoutez sur FMR 89.1 MHz. Nous sommes en direct en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode,
il y aura un débriefing du salon du jeu. Je vais essayer d'aller voir The Grandmaster de Wong Kar-wai parce qu'il faut pas déconner.
Si tu pouvais me parler. Ah oui, bah, ce qui paraît pas mauvais. Et si tu pouvais me ramener aussi le truc sur Saint-Jacques-de-Compostelle ou alors tu le chroniques.
Ah oui, c'est vrai.
Vous pouvez faire ça en off, non?
Non, c'est le débrief et tout ça.
D'accord.
Enfin, en attendant, d'ici là.
J'amènerai des cacahuètes et du coca.
Voilà. Ouais. Oh, super initiative. Ah, pas de marque. Moi, ça tombe bien. Tiens, on se donne rendez-vous nous-mêmes la semaine prochaine, même fréquence. Et vous, venez dans le même studio, dans vos petites oreilles. On sera présents.
On sera là.
Merci à vous. Tchuss. Bye bye. De suite du sport sushi. Et avec la participation exceptionnelle du soleil.